Courir, c'est bon pour la santé. La santé physique, bien entendu, mais aussi pour la santé mentale, la tête, notre cerveau. Et c'est aussi donc un moyen de mieux travailler. Car le travail revient souvent dans les discussions avec mes invités et la communauté des champions et des championnes. D'un côté, il peut être un frein pour s'entraîner comme on le souhaite, mais d'un autre côté, on se rend compte à quel point le sport et la course aident à se sentir mieux, décompresser, avoir des idées ou même débloquer des problèmes. Et puis la course est aussi un temps important pour bouger et encore plus quand on est en télétravail. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment Colin s'organise, prépare des courses longues qui nécessitent un gros volume d'entraînement, tout en étant papa, en travaillant de chez lui et en faisant même de la musculation et des gâteaux. Et vous allez aussi découvrir sa philosophie de coureur qui ne se focalise pas sur la vitesse et le temps. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de sport, surtout de mouvement, et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos, je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertrandsoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, le point de départ de cet épisode est une discussion que j'avais lancée récemment sur Fred. Ouais, moi j'appelle Fred, vous savez, c'est le nouveau réseau social de Meta, sur les bénéfices de la course dans le quotidien personnel ou professionnel. J'ai eu des chouettes réponses et Colin, alias Slowly We Run, avec qui j'échange régulièrement, que j'avais même croisé lors de 24 heures, m'avait répondu et je l'ai donc invité pour en discuter. Colin prépare un dernier homme debout et la diagonale des fous. Il partage tous les matins des messages humoristiques sur des positions de yoga qu'il n'arrive pas à faire, mais aussi des photos de ses gâteaux. Il consomme plus de beurre de cacahuète que moi et partage aussi ses entraînements. Il partage tout un tas d'informations très intéressantes sur la course à pied, y compris des données scientifiques. Et c'était aussi pour moi l'occasion de discuter avec lui sur l'importance de la course dans sa vie, des parallèles entre le travail et l'entraînement, de l'apport du sport aussi au quotidien dans sa vie. Il nous parle de son organisation en télétravail, de ses routines pour bouger sans même quitter son bureau, car vous allez voir qu'il a un appareil très spécial qui lui permet de bouger tout en travaillant et ce n'est pas un tapis de course. Nous avons aussi parlé de sa vision de la course, du plaisir qu'il prend à prendre son temps et même d'une drôle de rencontre une nuit sur un chemin corse. Allez, c'est parti.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour Colin.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Bah écoute, ça va bien. Je me pose déjeuner pour être avec toi, donc ça va.
Eh ben, je te remercie pour la pause déjeuner, même si t'as pas amené les petits gâteaux que tu montres sur ton compte Instagram, les petits gâteaux que tu cuisines. Bon, tant pis.
Bah, c'est, je voulais pas que les auditeurs m'entendent manger en même temps que je parle, donc voilà.
Ouais, mais bon, écoute, peut-être qu'il faudrait que tu partages la recette, je sais pas, parce que ils avaient l'air bons quand même. J'ai l'impression que t'en fais tous les jours, non?
Ouais, en fait, c'est une petite recette que je fais de. Enfin, j'ai un peu pris une petite habitude de me faire des petits muffins, des petites pâtisseries comme ça pour grignoter le long de la journée. L'idée, c'était plutôt que de remplir mes placards de bouffe industrielle et autres trucs en supermarché, c'est plutôt de les faire moi-même, de prendre des petites recettes un peu simples. Que je peux faire en un quart d'heure et comme ça, au lieu d'aller taper dans les paquets de biscuits, plutôt me faire une petite pâtisserie maison que je peux manger dans la journée. C'était plutôt ça l'idée. C'est pour ça que j'en fais souvent.
Ouais, c'est cool ça. Bon, on va évacuer aussi. T'es un amateur de beurre de cacahuète.
Ouais. ouais, ça c'est le petit plaisir de la famille. Ça. Les pots ne durent pas très longtemps quand ils arrivent dans nos placards.
Alors, je pense que j'en consommais beaucoup, mais j'ai l'impression qu'en kilogrammes de beurre cacahuète par mois, tu me dépasses.
Ah ouais, là on est bien. Ouais, là on vient d'acheter un pot de 1 kilo, je l'ai reçu vendredi d'il y a une semaine et demie, et ouais, il est bientôt fini là. Donc, mais bon, on est 3 pour ma défense.
Vous êtes 3, donc 1 kilo, 10 jours.
Ouais.
À 3. Et même à 3, n'empêche, ça fait quand même une bonne consommation. Mais bon, tant qu'on y est, alors, parce qu'on n'est pas sur la partie cuisine, on parlera travail après, mais t'as une marque préférée?
Une marque préférée, alors j'ai pas mal commandé sur Koro, là, ces derniers temps. C'est vrai qu'ils font des bons. Ils font des très bons produits, et puis j'aime bien le principe de pouvoir acheter les choses en gros et aussi de recevoir les choses en non. En gros, y a pas de le conditionnement est dans des gros sacs. On reçoit plein de gros sacs de bouffe. Et donc, j'aime bien l'idée de ce conditionnement où ils ont pas mis plein d'argent dans le marketing pour augmenter les tarifs et qu'elles sont un peu moins chères. Donc, voilà, ce n'est pas sponsorisé hein, pour les auditeurs. C'est petit coup de pouce.
Et si vous regardez dans la description de l'épisode, il y aura un code. Et mon code, en plus, c'est Hamsters5 maintenant. Le code, ah. C'est... Donc, voilà. Donc, je dis... pareil, hein. Beurre cacahuète, moi, le crunchy de chez Koro, il ne résiste pas très longtemps.
Le salé, nous, c'est le salé qui part très vite. Quand on commande, ils font un beurre de cacahuète salé qui part vraiment très, très vite voilà. À la maison.
Bon, alors, on n'était pas là pour parler cuisine. On est là pour parler quand même course, travail, etc. Ça tombe bien que ce soit sur ta pause déjeuner. Je me suis demandé, parce que... Alors, déjà, on va te présenter, et notamment sur comment tu cours, etc. Moi, j'ai l'impression que... Et attends, ça, c'est vu l'extérieur. Après, tu me diras comment c'est. Je te vois beaucoup parler sur Fred's, notamment, plein de mettre de messages, etc. Parler beaucoup de courses. J'ai l'impression que tu cours beaucoup, mais... et tout. Tu partages beaucoup de conseils aussi et tout, et donc ça m'intriguait beaucoup de voir quel était le coureur que tu es vraiment en fait, tu vois, et quelle place la course joue dans ta vie en fait.
Ok. Donc je m'appelle Colin. Je travaille dans une boîte qui fait des. Je travaille dans l'informatique dans une boîte qui fait de la formation et du conseil et du développement applicatif. Donc je suis toute la journée derrière un ordinateur en train de taper des lignes de code. Donc ça c'est pour ma partie pro. Donc ouais, je travaille un bon petit nombre d'heures par semaine assis à ma chaise sur mon bureau, et à côté je fais aussi beaucoup de sport. Donc j'ai commencé la course à pied il y a un bail maintenant, donc peut-être je dirais 2008-2009. Au départ, c'était la course à pied du vendredi matin pour se donner bonne conscience après les jeudis soirs étudiants. Donc ça a un peu commencé comme ça avec un pote. Après, je me suis mis un petit peu plus sérieusement, je dirais peut-être 2012-2013. Puis j'ai dû faire mes premiers semis. J'ai fait mon premier marathon, je crois, en 2015-2016. Et après, j'ai fait ces marathons-là. Je me suis plutôt tourné vers le trail. Donc maintenant je fais que du trail, je fais pas du tout de route, et ouais, je cours les distances qui me font vibrer, c'est plutôt les très longues distances. Donc c'est vrai que je cours beaucoup, je fais pas mal de volume dans l'année. Là on arrive fin février, j'ai déjà fait 600 bornes dans l'année.
Ouais, donc, on est le 27 février, mais... donc en deux mois, 600 bornes, 300 bornes par mois, bam.
Voilà, à peu près. Donc ouais, je fais pas mal de bornes et je dois être à quelque chose comme 8000 mètres de dénivelé, un truc comme ça. Donc j'essaie de faire environ entre 60 et 80 km par semaine, à peu près entre 1000 et 1500 mètres de dénivelé. Donc voilà, c'est ça, que je fais. Donc je fais pas mal de volume. Après, à côté de ça, je fais aussi pas mal de musculation, que j'ai pareil commencé plutôt au départ comme un complément à la course à pied. Quand j'ai commencé à me mettre aux plus longues distances, forcément, j'ai fait comme l'erreur qu'à peu près tous les coureurs font, c'est que je me suis mis juste à courir. Je suis passé de semaines à 30 km à des semaines à 60 d'un seul coup, de manière un peu brutale. Donc j'ai eu des premières petites douleurs, et c'est vrai qu'en allant chez le kiné, je me rappelle très bien de cette phrase que le premier kiné que j'ai vu m'a dit le problème des coureurs, c'est que vous ne voulez que courir. Ah ouais. Ça m'a un peu marqué depuis, et en fait je me suis mis à justement faire des exercices un peu de musculation qui étaient très axés course à pied au départ, et puis en fait après je me suis pris un peu, c'est une discipline qui m'a plu, et je me suis mis à vraiment travailler tout le corps, et donc ouais, ça vient en complément de la course à pied, mais plus que maintenant je considère ça vraiment comme une pratique en entier. Je fais aussi de l'escalade à côté. Bon voilà, je fais un petit peu aussi du vélo, je fais un peu de yoga tous les matins, parce que bon, comme comme beaucoup de coureurs, je suis
Et c'est
un
très
peu raide,
drôle.
donc ouais.
C'est très drôle parce que, alors, il faut le dire quand même. Rappelle-nous juste le nom de tes comptes sur Instagram et compagnie, pour que ceux qui te suivent comme ça, là, ils pourront aller voir. Je mettrai le lien,
D'accord,
bien sûr,
ouais.
mais.
Donc sur Instagram et Fraise, je suis Slowly We Run, donc Slowly Run. Bon, voilà, je partage pas mal effectivement de mes déboires avec le yoga notamment.
C'est très drôle parce que j'ai l'impression que, alors je sais pas, tu fais pas tous les matins, mais très régulièrement tu mets une photo d'une yogini, on va appeler ça. Alors je sais pas sur quelle application tu la prends, qui a des positions qui semblent effectivement pour des coureurs raides. Alors moi, je comprends tout à fait, qui semblent juste hors de portée. En tout cas pour moi, c'est hors de portée. Je sais pas si pour toi c'est hors de portée ou si c'est la blague, mais.
Ah oui, c'est complètement hors de portée, effectivement, des fois. Donc c'est une application qui s'appelle Down Dog,
Ouais.
donc qui en fait c'est une application qui est sympa parce que ça génère automatiquement donc on lui demande ce qu'on veut faire et ça génère automatiquement les entraînements. Et donc il y a effectivement la voix off qui va dire peut-être que votre tête est en train de toucher le sol et moi je suis à même pas. Voilà, j'ai réussi à me pencher de quelques degrés, donc oui, c'est assez. La différence entre ce que la dame veut que je fasse et ce que j'arrive vraiment à faire est assez importante.
Mais tu t'améliores quand même ou tu constates une amélioration ou pas?
Ouais, je me suis un petit peu amélioré, après, j'en fais pas suffisamment, et puis, enfin, en proportion du volume que je fais en course à pied j'ai appris récemment que la musculation aidait à la souplesse, mais effectivement, en proportion de ce que je fais dans d'autres sports, je pense que j'en fais pas suffisamment pour avoir des résultats notables, mais après, je pense que ça me fait aussi du bien. Je fais ça le matin en me levant, en fait. Je fais 20 minutes le matin quand je me lève, ça me permet de me réveiller doucement, et puis quand j'ai des petites parties du corps qui sont un peu tendues, ça me détend, ça me fait vraiment, c'est un petit moment confortable, un petit moment plaisir le matin pour bien se réveiller. Donc,
C'est dans ta routine. Non mais et c'est très drôle parce que c'est vrai des fois. Puis tu vois les positions, je dis ouais mais moi non plus de toute façon je rêverais pas à la faire celle-ci. Je me dis mais déjà il y en a même certaines où je me dis mais juste même sans bouger quoi, juste essayer de me mettre dans la position. C'est vrai que moi j'y arrive pas. Mais bon après c'est comme ça. Hein.
Alors, je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont dans notre cas, effectivement. Quand je partage sur Fred, il y a plein de gens qui sont un peu comme moi, et donc ça me rassure aussi. Je me dis, bon, je suis pas le seul à être tout raide comme ça.
Ouais, bon, pour autant, si vous cherchez le bon yoga sur Kimet 42, vous verrez que j'ai fait plusieurs épisodes sur le sujet. On a quand même hein, dans des gens qui font du yoga, qui sont souples, qui courent, qui font plein de disciplines. Mais bon, c'est vrai que eux, en général, ils ont beaucoup d'heures de yoga, beaucoup
Oui.
une pratique depuis des années, etc. Je pense notamment à Greg, qui est instructeur yoga, qui court, qui nage, qui fait du triathlon, qui fait un peu de tout et qui est extrêmement souple. Hein. Quand je vois ce qu'il fait, je me dis oh là là, tout. Si lui est instructeur dans l'application, il serait pareil que la dame. Là. On n'en arrive pas à suivre ce qu'il fait. L'autre jour, il a fait un truc où il se retournait sur le dos. Et tout, j'ai vu la souplesse, je dis bon, voilà, comme quoi c'est quand même possible, c'est vrai, mais il faut le dire que la course à pied fait partie des sports qui raidissent, hein, qui on est assez réputé pour plutôt raidir que qu'assouplir. Et pourtant, alors l'escalade, tu vois, il faut pas être souple pour faire l'escalade.
Si, après, il faut de la souplesse et il faut de la force. Après, ça fait pas non plus, ça fait 2 années que j'ai commencé. Après, effectivement, dans les parties où ça se passe en souplesse, donc autant les parties force, j'arrive à plutôt bien les passer, mais dès qu'il faut arriver à des positions un peu souples, où il faut vraiment monter les jambes bien ou vraiment être bien écarté, je suis un petit peu limité sur ces parties-là,
D'accord.
effectivement.
Alors, tu nous as dit à peu près combien tu courais. Il me semblait que. Alors, j'ai vu que tu prépares des choses. Je crois avoir dit, mais peut-être c'était une erreur. Tu faisais pas partie de ceux qui devaient faire une course le week-end dernier, genre un dernier homme debout, un truc comme ça, ou je me suis trompé?
Non, je prépare l'Infinity Trail, donc la Backyard Ultra d'Osgore au mois
D'accord.
d'avril.
Ouais, ok.
Pour ceux qui ne connaissent pas, le principe, c'est une course donc de 6,7 km. Donc il y a une boucle de 6,7 km où le départ est à heure fixe. Et donc il faut dans l'heure avoir fait la boucle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule personne en train de tourner.
Tu tables sur combien de temps de boucle?
Voilà, bon, je touche du bois, j'aimerais bien faire 24 heures, parce que 24 heures, ça fait 160 km. Donc, parce que je prépare aussi la Diagonale des Fous, là, en octobre. Et donc, l'idée, c'est d'avoir fait la distance, là, en avril, donc de manière assez éloignée de la Diag, pour pas non plus, parce que faire un 160 cet été, plus la Diag, ça aurait été trop, mais là, me dire, bon, faire au moins la distance, en avril. Et puis, comme ça me permettra de, enfin, voilà, en prépa de la Diag, c'est une bonne course. Et donc c'est vrai que c'est un format qui est vraiment bien pour. J'en discutais la dernière fois sur Fred justement avec quelqu'un qui voulait se mettre à faire du plus long, à faire des ultras. Et c'est un format qui est vraiment bien les backyards. Donc en fait il y a une boucle de 6,7 à faire toutes les heures. Et donc on rentre à son point de départ, à son ravito toutes les heures. Donc on a un peu moins cette question de porter tout son matos sur soi, à se poser. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de courses qui permettent de vraiment aller chercher au bout de ce qu'on peut faire, au bout de ce qu'on est capable le jour où on est là. Parce que si on s'inscrit à un 50, à un 80, ben en fait, quand on arrive à 80 km, il faut qu'on s'arrête. Alors que peut-être qu'à 50, on aurait pu faire 7 km de plus. Peut-être qu'à 80, on aurait pu faire 10 km de plus. Et j'aime beaucoup ce format et je trouve que c'est une bonne introduction à l'ultra pour les gens qui veulent s'y mettre, justement pour vraiment aller chercher loin et pour moins de contraintes en termes de technique, enfin de logistique, à porter son sac, à savoir comment on va se ravitailler, on peut changer de chaussures ou de chaussettes toutes les heures. Donc il y a vraiment des choses. Vraiment, c'est vraiment bien comme format pour se lancer.
Et qui, peut-être pour ceux qui pensent que les 24 heures, la boucle est trop petite, ils ont peur de tourner trop en rond comme des hamsters, la boucle, elle est plus longue. Parce que ça, sur les 24 heures, sur les courses, il y a des boucles qui font 1 km, 1 km 2, 1 km 6 dans ces zones-là. Donc tu te retrouves à tourner peut-être 100 fois sur la même boucle, hein, des choses comme ça. Là, finalement, ta boucle, tu l'auras faite 24 fois, quoi, pas plus.
Oui, c'est ça. Puis en plus, là, c'est vrai que c'est autour du lac d'Osgore, donc c'est plutôt sympa comme cadre. Il y en a une en Bretagne il n'y a pas longtemps qu'ils ont fait, donc qui devait se tenir en octobre ou en novembre et qui a eu lieu là en janvier. Où c'était vraiment une boucle de trail, donc c'était vraiment plus complexe où il y avait des passages avec des cailloux, du sable, il y avait du dénivelé dessus. Alors que là, c'est vrai qu'Osgore, bon, bah, il n'y a pas de dénivelé, ça tourne autour du lac, il y a pas mal de passants, donc on se fait aussi encourager. C'est au mois d'avril, donc la météo est plutôt clémente. Et puis bon, c'est vrai que de voir le soleil se coucher, se lever sur le lac d'Osgore, c'est plutôt sympa. Donc ouais, Osgore, c'est une bonne course, hein. De toute façon, d'ailleurs, les places sont parties super, super vite.
Bon, on n'aurait pas
Même
pu
que
en
là,
fait
le
venir.
format,
Ouais. Non, mais
le
c'est vrai
format qui
que
est confidentiel.
ouais, c'est un format qui se répand, hein, c'est vrai. Et tu vois, et moi j'étais persuadé que ce week-end tu faisais celle de, c'était Orvault, il y avait, qui était prévu, qui était annulé là, ou je sais pas quoi là et tout, Loire-Atlantique, qu'ils ont fini par faire quand même. Alors je sais pas, peut-être pas dans la distance et tout, mais ils ont fini par se rejoindre. Il y avait un petit peu de monde quand même. Notamment, il y a même Lucas Papy qui avait fait le déplacement. Alors tous ceux qui avaient fait le déplacement étaient bien contents d'avoir fait le déplacement dans la team Brooks. Là, j'en avais deux là qui le faisaient et tout et qui étaient bien content, j'ai vu les photos et je dis bah t'as bien fait d'y aller quand même dans ton truc, même si c'est vrai que c'était très humide, hein, avec le temps, c'était quand même pas le temps idéal, mais c'est vrai que c'est un format quand même qui se répand, qu'on voit tourner un petit peu plus, hein, qui change aussi un petit peu et qui est poussé par la backyard. C'est vrai que la légende, la fameuse légende américaine, etc., quand on voit ça et tout, les formats se viennent comme ça, quoi. Mais t'en as déjà fait, toi?
Oui, j'ai déjà fait celle d'Osgore l'année dernière, justement.
Ouais.
Je reviens, puis c'est vrai qu'on est un petit groupe de copains à le faire, donc on va être une dizaine de potes à le faire, donc c'est aussi ça que j'aime bien, parce que c'est vrai que dans les courses classiques, tu peux y aller avec tes potes, mais en fait chacun va plus ou moins faire sa course, alors que là, bah, on va vraiment passer le week-end ensemble, donc c'est ça aussi qui est sympa. Enfin, vraiment, c'est vraiment un format que les gens qui ne courent pas et ne font pas d'ultra ont vraiment beaucoup de mal à comprendre. Quand on leur explique le concept, je leur dis qu'on va tourner en rond pendant des heures, mais non, c'est vraiment une course qui est chouette.
Ouais. Et puis comme tu le dis, et c'est vrai que c'est comme l'avantage des 24 heures, c'est que ça permet d'être tranquille sur la logistique. Il n'y a pas l'histoire de dire je vais passer la nuit dehors Parce que on en parlait avec l'invité précédent en disant bah ouais, la première fois que tu passes une nuit dehors, que t'entends, si t'es dans la forêt, dans la montagne ou de, pour ceux, alors selon les cas, toi ça sera la Réunion, pour ceux qui font l'UTMB et tout, passer la nuit dehors, voire deux, c'est pas facile, hein, il faut s'y faire, il y a des bruits que tu découvres, faut gérer tout un tas de choses. Alors que là, tu reviens finalement à ton campement. La différence quand même avec le 24 heures, c'est que là t'es obligé de repartir toutes les heures. Alors que 24 heures, oui. Si t'as envie de dormir 2 heures ou 3 heures, tu t'arrêtes, tu gères ton rythme. Là, toi, t'es obligé de repartir.
Ah, bah c'est vrai que j'en parlais donc avec Max, un copain qui a fait le record de France l'année dernière. Et il disait que lui, il trouvait le 24 heures plus dur parce que il y avait que toi qui te forçais à repartir.
Ouais.
Alors qu'en fait, là, la backyard, c'est tu fais ton tour et 3 minutes avant l'heure, ça sonne, 2 minutes, 1 minute, et en gros, tu rentres, tu mets ton matos et tu repars. Et t'as pas à réfléchir à te dire. Bon, allez, je vais peut-être me poser 20 minutes, et puis après, tu te diras pas tout de suite, je repars. Que là, en fait, t'as le côté où tu peux rentrer en mode robot et pas avoir à réfléchir, justement, à te dire, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que, là, c'est vraiment le mode, on débranche le cerveau. Pardon, on débranche le cerveau et on court.
Le record de France, tu sais combien il est, là, ton copain Max, là?
Il avait fait 60 tours, donc ils avaient fait 60 tours à 3, mais je crois que, alors si je me trompe pas, ils ont dû faire 70. Là, ça a été battu l'automne dernier, je crois que c'est 70-71, et leur record féminin c'est 61. Et leur record mondial c'est 108.
J'ai vu des vidéos, alors je sais pas si c'était du record mondial et tout, mais j'ai vu des vidéos, notamment parce que je suivais un gars qui est aux États-Unis qui en faisait beaucoup, sur les derniers tours, quand il tourne à 2 ou 3, et il y en avait un notamment sur une vidéo où je voyais, il tournait avec les, il a tout démembré dans tous les sens, on se demandait encore comment il avançait, puis qu'il repartait, on se disait, mais il va repartir, oui, il repart et tout. Et, c'est vrai, c'est quand même, mentalement, c'est quand même un format qui est impressionnant, hein, quand ça dure et tout, parce que là, on parle, 61, tu m'as dit 61 chez les femmes et 108 le record du monde et tout. C'est, j'étais en train de calculer, mais ça fait 4 jours quand même cette histoire-là, quoi.
108, ouais, ça doit faire 4 jours et demi. Ça faisait 700 km, je crois. 740, ou je sais plus, mais un truc. Oui, des trucs faramineux de. La course, je me rappelle, le championnat du monde a dû commencer le vendredi. Enfin, c'est un truc, une connerie, le vendredi ou le samedi. Et genre, en fait, j'allais me coucher, je me relevais, je regardais. Et au bout de 4 jours, ils étaient toujours. C'est vrai qu'on a du mal à. Enfin, on a du mal à se le représenter, je pense, ce côté. Ce côté aussi long. Et même quand. Donc à Osgore, l'année dernière, mon pote Max, qui a fait 60 tours, nous, on est parti de Bretagne, on a fait la route. Donc on a commencé la course le vendredi midi. Le samedi, dans l'après-midi, on a tous fini. Donc on était au camping pour le samedi. On a refait la route pour rentrer à Rennes. On est rentré chez nous et il était encore en train de courir. Alors que nous, on a eu le temps de faire une nuit, de faire tout un truc en voiture. Et en fait, il est toujours en train de courir sur la même boucle.
Lundi matin, t'as repris le boulot et t'es encore en train de courir.
Ah, ils sont arrêtés le dimanche à minuit, mais ouais, c'est vrai que c'est difficile de se représenter et de se rendre compte, quoi. C'est assez incroyable.
Bon, tu nous as pas dit finalement, on a à peu près ton 2 km, que tu t'entraînes combien d'heures en fait? Parce que tu peux pas, enfin, c'est pas des allures rapides. Enfin, tu gères comment ton allure d'ailleurs pour, comment tu t'entraînes là-dessus?
Non, je vais pas, effectivement, je cours pas très très vite parce que de toute façon, c'est pas, c'est effectivement pas ce que je vise. Ouais, parce que sur une semaine à 80 km et entre 1500 et 2000 de dénivelé, ouais, je vais être sur 10 heures à peu près de course à pied, 10-11 heures de course à pied. Après, comment je m'entraîne, après, c'est vrai que j'ai la chance je travaille de chez moi, je suis en télétravail à 100%. Vers 7 ans maintenant. Ce que je fais, c'est que ça me permet le midi, en fait, sur ma pause déjeuner, je prends ma pause déjeuner pour aller courir. Après, je peux manger dans mon ordi. Donc, c'est ça, déjà, ça me libère du temps. Puis, j'ai pas les transports. Donc, j'emmène ma fille à l'école le matin. Donc, ça prend une demi-heure. J'ai cette demi-heure de trajet dans la journée, mais j'ai pas la demi-heure de voiture pour aller au taf, la demi-heure de voiture pour rentrer. Donc déjà, mine de rien, ça libère pas mal de temps. Après, effectivement, quand il y a des journées où, je sais plus, il y a 2 semaines, j'ai dû faire une journée où j'ai dû faire, j'ai une petite boucle autour de chez moi qui fait 6,7 km que je fais justement en prépa et que j'ai dû faire 8 tours. Donc c'est 8 heures qui sont prises. Donc je me couche tôt le vendredi soir, je me lève à 6 heures le samedi matin, puis à partir de 7 heures, je vais commencer à la tournée. Donc voilà, effectivement, c'est des gros. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais après, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore faire, donc je ressens pas ça comme une contrainte. Le fait d'aller me coucher tôt pour me dire je vais me lever tôt pour aller courir, c'est pas quelque chose que je ressens comme une contrainte. Et après, oui, j'ai la chance de pas d'avoir, entre guillemets, beaucoup de temps gagné par le fait de ne pas avoir de transport pour aller au taf. C'est vrai que c'est un bon. C'est plutôt pas mal pour quand on veut caler des gros entraînements comme ça. Et puis, effectivement, de manger. Moi, je mange. Au final, je mange toujours à 14 h parce que je prends ma pause à midi, midi et demi, et je vais courir. Donc, c'est un peu un running gag avec mes collègues, parce que dès qu'on a une réunion à 14 h, ils me voient en train de manger. Mais ils blaguent en disant que maintenant, je n'arrive plus à manger si j'ai pas une caméra devant moi.
Hey, arrête, il y en a, c'est un business. Hein.
J'ai découvert ça il y a pas longtemps, oui, les vidéos YouTube de gens qui mangent. Donc j'aurais peut-être m'y mettre. Il y a peut-être un filon.
Ouais. Bah, peut-être que t'as pas le filon des gens qui font du yoga en direct sur internet, parce que bon, puis le créneau est bien pris. Mais notamment, oh, c'est au Japon où il y a des. Mais les Américains aussi, il y a des trucs. Mais les Japonais sont fans de ce truc-là. Alors après, le problème, c'est que souvent, ils ont pas tout à fait la même morphologie que toi à la fin de leur aventure. Ils mangent pas tout à fait la même chose que toi, je pense.
Mais je crois que d'après ce que j'ai compris, c'est né parce que les gens se sentaient seuls, donc ils mangeaient en mettant quelqu'un d'autre en train de manger en face d'eux. Mais oui, c'est devenu maintenant, je crois que c'est plutôt les Américains qui ont repris ça, qui mangent vraiment beaucoup, et le but c'est vraiment de s'engraisser au maximum. Donc non, je ne vais pas, je ne pense pas rentrer dans ce business de tenter de m'engraisser au maximum.
Ouais, bon, malgré le beurre, et comme quoi, et le beurre cacahuète, ça engraisse pas, hein.
Non, c'est de la bonne graisse, c'est ce qu'il faut dire. Et c'est plein de protéines.
Là, on a la même excuse, la carte du club, le club des amoureux du caca. Et je pense que ça a dû être marqué un jour sur les pots de beurre cacahuète. Dites ça si vous en mangez une cuillère, quand on vous reproche, quand on vous dit que vous en mangez trop. Parce qu'on a tous la même excuse.
Oh, puis c'est marketé par les marques de sport maintenant, fort en protéines, beurre de cacahuètes protéinées, tout ça. Donc
Ouais.
c'est devenu presque l'aliment du sportif.
Ouais, et même quelqu'un, j'ai vu il y a pas longtemps, se disait, mais comment est-ce que cet aliment-là est devenu un aliment santé? Parce que c'est quand même gras, calorique, etc. Mais toi, avec tes heures d'entraînement, t'as pas vraiment de culpabilité à manger ça, en fait.
Ouais, après je fais quand même gaffe dans le sens où je sais bien que c'est pas parce qu'on court beaucoup et qu'on est mince que on peut pas avoir des problèmes de santé. Donc je fais quand même attention à ce que je mange. Après effectivement comme tout le monde je mangeais de la bouffe industrielle et des trucs qu'il faudrait pas. Donc je mange ouais en quantité en volume de bouffe ça peut être pas mal. Mais j'essaie quand même de oui je Comme je te disais tout à l'heure, les petits, ça va être les muffins parce que au lieu d'aller manger des biscuits industriels, en fait, je me dis au moins je sais ce qu'il y a dedans, je mets des bons produits et je vais plutôt essayer de manger des grosses quantités, mais de bons produits. Et après, effectivement, je mange beaucoup, mais je suis stable en termes de poids, donc je fais ni de grosses, je fais pas de grosses chutes. Enfin, c'est vrai qu'il y a des gens qui J'ai vu il y a pas longtemps un message qui disait je vais réduire la course à pied parce que je maigris trop et parce que je perds trop de poids. Et bon moi c'est pas mon cas, je suis stable au niveau du poids, donc j'ai pas de je pense que j'ai trouvé l'équilibre maintenant.
Mais tu sais, et ça c'est un truc qui est intéressant, n'empêche, parce que en télétravail, c'est quand même un problème. Or toi, ça fait 7 ans, t'as de l'expérience, mais ceux qui découvrent le télétravail plus récemment, post-Covid, enfin Covid puis post-Covid, etc., ont quand même beaucoup ce problème, parce que l'autre jour, je regardais des discussions justement sur Fred, disant mais moi je vais grignoter toute la journée, je vais taper dans les placards, etc. Tu vois, enfin des trucs comme ça. Et puis certains qui bougent pas forcément, qui se rendent compte que finalement ils étaient presque en meilleure santé quand ils n'étaient pas en télétravail, qui au moins ils étaient obligés de bouger pour aller d'un point à un autre.
Ah, Après, moi, je sais qu'un truc que j'ai fait depuis que je suis en télétravail, c'est que bah, déjà, je prends plus mon petit déjeuner quand je me lève. Parce que ce que je m'étais aperçu que je faisais, et je pense que plein de gens font avant d'aller au travail, c'est que bah, tu te lèves et tu prends ton petit déjeuner parce que tu as toujours fait comme ça et que tu vas au taf. Sauf qu'en fait, et moi, je me rendais compte que je prenais mon petit déjeuner et que je remangeais une deuxième fois dans la matinée. Et en fait, moi, je me rendais compte que bah, je me levais, j'avais pas forcément faim, mais je mangeais un peu par réflexe. Ce qui fait que, bah, et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, je vais attendre d'avoir faim. En fait, je trouve que c'est ça aussi qui peut être positif, c'est de se dire, on va plus être calé sur des heures de repas parce que c'est l'heure de manger, parce que c'est l'heure de la pause au boulot. Moi, je peux me dire, bon, bah, le matin, je me lève, voilà, je commence à bosser, enfin, je fais mes trucs, je commence à bosser. Et au moment où je vais avoir faim, bah, je vais me lever et je vais aller manger. Et donc, j'essaie plutôt de faire ça, et pareil avec le repas que je vais plutôt faire vers 14h, parce que bah, en fait du coup je vais manger mon petit déjeuner vers 10h du mat, après je vais remanger à 14h, et donc en fait bah, déjà d'avoir un repas à 10 et à 14, bah, on n'a pas forcément faim à 15h, 15-16h, on peut voilà, ça peut permettre un peu de faire ça, mais c'est oui effectivement un des problèmes. Après la petite astuce bête que j'avais entendu, c'est s'il faut se brosser les dents directement après avoir mangé tout le temps, comme ça, bah en fait quand on vient de se brosser les dents, bizarrement on n'a pas envie d'aller grignoter. Donc effectivement c'est petit déjeuner et aller direct se brosser les dents, c'est un petit life hack un peu bateau, mais c'est quand on a ce petit goût de dentifrice parce qu'on vient de se brosser les dents, bah on a moins envie d'aller grignoter. Mais effectivement oui, il y a des questions de d'accessibilité à tout ce qu'il y a dans les placards. Après, donc, quand on va au travail, il y a toujours les gens qui ramènent les chouquettes et les pâtisseries et l'anniversaire de ci, de ça. Donc, mais effectivement, on a une accessibilité au placard qui est plus forte. Après, il faut arriver à se réguler. C'est pas toujours facile. Faut faire des muffins.
Voilà, faut faire les muffins. Et puis il y a aussi les enfants qui jouent. Parce que toi, tu dis, t'as une fille. Mais par exemple, il y a le goûter des fois. Alors je sais pas toi, ta fille comment vous fonctionnez, mais moi ma fille, elle prend le goûter à la maison. Et des fois en plus, elle ramène des bonbons. Les gamins, ils ont des anniversaires, elle ramène des bonbons. Des fois, elle veut un petit gâteau, des choses comme ça et tout. Ça fait des tentations quand même dans une journée, hein, sans qu'il y paraisse. Hein.
Ouais, après ça que ma fille moi mange pas pour son goûter à l'école,
Ah ouais.
donc j'ai pas ça. Après c'est vrai que le matin en fait elle déjeune et puis on est là et puis je déjeune pas, enfin je suis pas en train de manger en même temps qu'elle déjeune et on est là sans manger forcément. Mais oui, les enfants ont un rythme de nourriture qui est un peu différent du nôtre. Puis en plus on va les forcer à petit déjeuner le matin quand ils se lèvent, alors peut-être qu'ils n'ont pas forcément besoin, ils ont pas forcément faim, mais ils peuvent pas, oui, eux, ils peuvent pas attendre 10 heures du mat et se dire j'ai faim, et c'est le moment où ils vont commencer à manger.
Ouais, pour en avoir discuté avec la maîtresse qui dit des fois ça arrive et les pauvres à 10h de
Oui.
récré, ils sont morts de faim.
Oui, parce qu'ils peuvent pas ramener, en tout cas en primaire, ils peuvent rien ramener avec eux, donc c'est pas facile. Il faut bien qu'ils mangent le matin. Ouais. Mais c'est vrai qu'on nous inculque ça, alors qu'on se lève, on n'a pas forcément faim, on va manger par réflexe parce qu'on l'a toujours fait. Donc ça, quand on télétravaille, moi un jour j'ai réalisé, je me dis mais en fait je me lève, j'ai pas faim, je mange par réflexe et je vais remanger à 10h parce qu'à 10h j'ai faim. Donc j'ai plutôt enfin maintenant je me lève et voilà, j'attends d'avoir faim avant de manger.
Ouais, ça te fait presque un semi-jeûne intermittent, dis donc. À quelque chose près.
Voilà, oui, parce que ça doit ouais, je sais plus combien sont les heures pour que ça rentre dans le dedans, mais bah, en fait ce genre de découvre, je me dis bah j'y vais quand j'ai faim, puis j'y vais parce que c'est l'heure d'y aller.
Voilà, donc, et après, là, tu manges ton fameux petit muffin. Donc, vous regarderez les photos.
Voilà.
Non, mais et attends, t'en fais combien par fournée? Parce que j'ai l'impression que t'en fais quand même un bon paquet à chaque fois.
Ouais, j'en fais une vingtaine, je pense. 18-20, ouais. Bon, on est trois, hein, c'est pareil, hein. On est trois à taper dedans, donc
Ah, écoute.
ça peut descendre vite.
Bon, alors, il y avait un sujet quand même, et j'avais lancé un petit appel comme ça sur Fred, justement en disant qu'est-ce que ça t'apporte de courir le sport en général, on va dire, parce que tu fais plein de sport et tout, mais par rapport au travail, et c'est vrai que tu vois, on a commencé à en parler sur le télétravail, parce que finalement, si tu courais pas, et si t'amenais pas ta fille à l'école, tu bougerais jamais de ta chaise et de chez toi.
Oui, il y a ça. Donc moi, j'ai Je bougerai pas. J'ai un bureau assis debout et j'ai aussi un petit vélo de
Ouais. Ah oui,
un
c'est
vélo
vrai.
d'appartement.
C'est vrai, je l'avais vu.
J'ai un vélo en fait d'appartement sans guidon que je peux glisser sous mon bureau et j'essaie d'en faire entre 1 heure, 1 heure et demie tous les jours.
Ouais.
Ça prend un petit temps d'adaptation parce que faut pédaler en même temps qu'on fait autre chose, mais une fois qu'on est habitué, c'est presque. Des fois, j'oublie que je suis en train d'en faire parce que je suis concentré. Et donc, le fait de pédaler, ça m'aide un peu. Après, effectivement, l'un des trucs aujourd'hui que ça m'apporte la course à pied, c'est que bah, sur cette pause du midi ou sur des autres moments, bah, je peux couper quoi. Et c'est vrai que je suis un peu. Je suis pas strict, enfin en tout cas ma boîte n'est pas stricte sur les horaires, donc bien sûr on a des rendez-vous avec des clients, des choses comme ça, mais on peut commencer quand on veut et finir un peu quand on veut. Donc on a des choses à faire, on a des heures quand même à faire, mais donc ce que ça me permet, c'est que bah des fois je vais aller prendre la pause du midi un peu plus tôt parce que je suis bloqué sur un truc et que ça me voilà, j'ai besoin de m'aérer un peu l'esprit et effectivement si j'avais pas cette partie course à pied ou vélo ou peu importe, mais je resterai assis et c'est vrai que je me rends compte que quand je suis vraiment bloqué sur un truc, bah le fait d'aller dehors, d'oxygéner le cerveau, le corps, de faire autre chose, des fois la solution vient enfin des fois on a la solution en 3 minutes sur un truc sur lequel on est bloqué depuis 3 heures, parce que je pense qu'il y a le côté changement d'environnement et le côté ouais, le côté bouger quoi, et puis un peu le cerveau se repose, donc enfin se repose, s'oxygène. Et donc après j'avais entendu dire, je sais pas si c'est, j'ai jamais retrouvé les études, mais qui disait qu'on avait un taux en fait de déchets du corps dans le sang, et qu'en fait si on restait trop trop longtemps assis, ben on avait un pourcentage qui s'accumulait et qui faisait qu'on avait plus de mal à réfléchir, et que le fait de se lever et de s'oxygéner en fait, voilà, de vasculariser un peu le corps, ça permettait au cerveau d'être plus efficace. Enfin, j'ai l'impression que c'est assez vrai quand même, le fait de souvent trouver. Je crois que les Anglais appellent ça la pensée de la douche, la shower thought,
Oui,
le côté
ouais.
de.
Ce que j'allais te dire,
on...
c'est que ça fait partie en fait des. Mais c'est aussi un moyen de. J'ai l'impression de libérer le cerveau de certaines tâches dans lesquelles on est en saturation. Et que c'est comme si on avait d'autres zones qui se mettaient à fonctionner ou un petit peu différemment. Il y a aussi beaucoup ce truc-là, mais faudra que je recherche. Tiens, tu sais quoi, quand on aura terminé, je rechercherai dans mon bouquin, parce que j'ai un bouquin sur les bénéfices de la course pour les runners. Le lien entre les deux. Alors, il y a beaucoup de choses sur le bien-être, beaucoup de choses sur la dépression. Enfin, il y a eu énormément d'études qui ont été faites dessus. Il y a même des choses sur la créativité. Tu vois, tu disais les problèmes, etc. Et tout. Il y a plein de choses là-dessus. Et notamment dans le livre, il y a une page que nous, les runners, on devrait adorer. C'est qu'ils ont rendu compte que les runners sur certains tests sont plus intelligents que les autres. Mais ils ne savent pas. Mais et en fait, attends, il y a un truc. C'est qu'en fait, ils savent pas si c'est qu'on est plus intelligent parce qu'on court ou si c'est que finalement on est comment dire. Alors, je sais plus comment ils le tournent. Est-ce que c'est lequel, la poule et l'œuf en fait dans l'histoire? C'est ils ont pas la preuve qu'en fait la course développe l'intelligence, la créativité plutôt que l'intelligence et la créativité pardon. Mais ils ont pas la preuve non plus de l'inverse. Tu sais, est-ce qu'on est donc voilà. Donc statistiquement.
Est-ce qu'on est plus créatif parce qu'on court ou est-ce qu'on court plus parce qu'on est créatif? Ils savent pas qui.
Ils savent pas alors sur la créativité, sur des choses comme ça. Alors, je crois qu'ils parlent même du terme intelligence, mais je sais plus comment ils le mesurent parce que après les trucs de QI et tout, faudra que je retrouve le livre, la référence exacte. Mais je trouve que c'est un truc qui est bien en disant, bah au moins, tu sais, un truc en disant dans la population qu'ils avaient étudiée, etc. Ils s'étaient rendu compte que on était quand même mémoriser plus aussi. Je sais pas si tu te rends compte de ça, de choses comme ça. Il y a tout un tas de liens entre la course, le sport et le cerveau. Effectivement, cette histoire de la pensée et de la douche, là, j'avais lu ça. D'ailleurs, à tel point que si tu vas sur Amazon, tu trouves des petits carnets spécifiques pour écrire sous la douche. Et je connais même des gens qui en ont, tu vois, alors, sur Internet, etc., qui ont des petits blocs-notes comme ça et qui notent leurs idées sous la douche. Et d'ailleurs, tu me dis des fois, quand tu cours, tu as des problèmes qui se solutionnent dans ta tête, là, comme ça. Tu t'arrêtes pour noter les solutions ou tu fais comment?
Ça m'arrive, ouais, donc je cours avec mon téléphone pour j'écoute des podcasts, de la musique, des choses, et des fois, oui, ça m'arrive de m'arrêter et de je vais dans mon bloc-notes, donc j'ai mon bloc-notes de mon téléphone qui est rempli de petits trucs des fois, genre où je me le mets dans l'application de chat du boulot, je me le mets en direct pour le retrouver quand je reviens. Mais effectivement, des fois, j'ai des pauses, je vais courir, et puis j'ai une pause à un moment, je m'arrête, et puis je réponds à une question, je sais pas, en fait, c'est ça. Mais oui, c'est assez, enfin, ça arrive assez régulièrement, donc je pense il doit y avoir un phénomène, un truc qui se passe, physiologiquement pour avoir ce genre de choses. Après, il y a peut-être le côté où on est plus parasité par les notifications, les appels, les mails, les choses, et on peut se concentrer, on part et on peut vraiment se concentrer sur la chose, et donc on va faire des liens qu'on n'aurait pas fait avant, et on peut vraiment se concentrer. J'ai pas l'origine scientifique de ce phénomène, mais de mon avis, doit y en avoir une.
Ouais, non mais c'est sûr, il y en a sûrement. Ne serait-ce que sur des questions je pense de voir autre chose. Et en plus, il y a un autre aspect. J'ai lu il y a encore pas très longtemps, c'est à quel point la couleur verte et la nature nous font du bien à notre cerveau. Donc je sais pas si tu vas courir en nature ou comment tu t'entraînes, mais ils avaient même fait juste le test hein, de mettre des fausses fenêtres avec un poster d'arbre dans un hôpital. Ils se sont rendus compte que les gens se sentaient mieux quand il y avait un poster avec un arbre plutôt qu'un poster avec des briques. Ce qui explique quand ils avaient fait ces études-là, tous les hôpitaux maintenant, il y a des patios, tu sais, avec des arbres, on voit enfin. Tous. Alors en tout cas, la plupart, ils essayent d'avoir ce côté avec des patios, de tout. Mais ils disaient que ça marchait avec une affiche. À quel point on a besoin, en fait, que le vert et les arbres sont importants. Donc si tu vas courir en nature, dans des parcs et autres, je pense en plus que si tu mélanges un peu tous les aspects, tu as plein de bénéfices, en fait.
Ouais, effectivement, et puis on est moins coupé par s'arrêter. Enfin, moi je cours effectivement juste j'ai une forêt juste à côté de chez moi, donc je suis tout le temps là-bas, et on n'est pas coupé par les voitures qui passent, par les bruits des klaxons, les s'arrêter au feu, les choses comme ça. Donc on peut se presque bon, après ça dépend si on court vraiment aux endroits où il y a les racines, les cailloux, les trucs comme ça, ou si on est en ligne droite, mais c'est vrai qu'on peut il y a un petit côté très hypnotique, la course à pied, qui permet de réfléchir des fois.
Tu cours que de jour ou tu t'entraînes de nuit aussi?
Les deux, ouais, je m'entraîne de jour et de nuit. Après, c'est vrai que surtout là, l'hiver, il a fait jour, enfin, il a fait nuit très tôt. Mais j'essaie d'un peu tout faire, parce que justement, quand on fait de la longue distance, on va courir. Ça peut commencer très tôt, ça peut commencer très tard. J'ai fait la Restonica l'été dernier, qui commence à 23 h. Ouais, donc, il faut. J'avais fait une sortie avec des copains en juin dernier, où on était parti à 23 h. On avait fait 50 km là autour de la maison. Donc voilà, il faut se. Ouais, c'était la sortie du vendredi soir, hein, avec les copains, 50 km. Mais il faut s'entraîner effectivement. À ce genre de choses, parce qu'il y a plein de lutter contre la fatigue aussi, être habitué à courir avec une frontale, parce que bon, c'est pas le jour de la course qu'il faut découvrir si sa frontale marche bien, comment on la règle, est-ce que là-bas ça nous gêne d'avoir une batterie devant, derrière, tout ça. Donc c'est vraiment le genre de choses qu'il faut travailler en amont. Mais ça, c'est voilà, j'aime bien courir de nuit. Le côté où on va partir tard, et en fait on est un peu fatigué, et il y a un truc qui se passe dans la nuit où notre corps, hormonalement, quand on se rapproche de l'heure où on se réveille d'habitude, donc on va être hyper fatigué, 23 h jusqu'à 5-6 h du mat, et là on sent que le corps se réveille. C'est assez sympa à constater comme phénomène, de se dire que oui, on est en train de courir depuis 5-6 h, et qu'en fait là on commence à se sentir mieux, parce que c'est l'heure où on se lève d'habitude.
Ouais.
Donc, mais ouais, c'est des. Moi, je pense que c'est nécessaire, hein, quand on se met à faire des longues distances, de pouvoir courir un petit peu n'importe quelle heure du jour et de la nuit, de pas être bloqué par la nuit. Et effectivement, surtout que quand on est sur des ultras, tu disais tout à l'heure, la nuit en montagne, on a des bruits, on a des choses. Et j'ai, par exemple, moi, quand j'ai fait la Restonica, la deuxième nuit vers, je sais pas, devait être 1h du matin, je me suis retrouvé, donc j'étais tout seul, c'est dans la montagne, et je me suis retrouvé avec une vache, en fait, vraiment au milieu du passage, avec son petit veau. Et c'est vrai que ça, enfin, ce genre de truc, si t'es déjà hyper déboussolé, donc ça, c'était la deuxième nuit, ça faisait, enfin, j'avais pas dormi depuis, et si t'es déboussolé par le fait d'être de nuit, et en plus, avoir une vache de, je sais pas combien de kilos en train de protéger son petit veau au milieu du chemin, et que t'as pas, t'as plein de paramètres à prendre en compte, donc le fait d'avoir géré, d'être habitué à courir de nuit et d'avoir tout ça, c'est le genre d'événement auquel on peut s'attendre sur des ultras, et il faut se dire que si on est déjà gêné par le fait de courir la nuit, c'est compliqué de gérer ce genre de choses. Enfin, il y a beaucoup d'imprévus dans un ultra, donc si on peut se préparer, prévoir l'imprévu, entre guillemets, être préparé à toutes les choses, tous les imprévus qu'on va rencontrer, c'est assez important de travailler ça en amont de la course.
Et t'as fait quoi avec la vache là? T'as contourné, t'as dit pardon madame, je vous dérange pas?
Je pouvais pas la contourner parce que vraiment c'était sur un petit chemin où elle prenait, vraiment toute la place. Donc, puis en fait, je voulais pas, elle avait vraiment, il y avait un petit veau, elle était toute seule avec son petit veau en plein milieu de la. Donc en fait, j'ai attendu, je me dis, je pouvais pas passer derrière parce qu'il y avait vraiment pas la place et elle voulait pas bouger, quoi. Donc je me suis approché, j'ai essayé de faire un peu de bruit, mais je me dis, je vais pas faire trop de bruit parce que si elle prend peur et qu'elle a peur pour son petit. Donc en fait, j'ai attendu et puis j'ai attendu que le veau parte. Donc il est en train de brouter et puis je sais pas, mais c'est passé bien 10 minutes, quoi.
Ouais.
Tu te sens un peu con quand même, hein, dans ce genre de moment. Je suis tout seul au milieu de la montagne, bloqué par une vache avec son veau. Donc j'ai attendu, en fait. Je me suis dit, ça sert à rien d'essayer de la pousser. C'est des vaches de la montagne. C'est pas des vaches de la campagne de chez nous, en plus. Donc je sais pas quel est leur niveau d'agressivité ou si elles vont vraiment apprécier si je m'approche d'elles. Donc ouais, j'ai attendu que le veau parte. En fait, elle a monté un petit peu après pour le suivre et j'ai pu passer tranquillement. J'ai attendu.
Ouais, surtout que tu as peut-être déjà vu cette vidéo de la vache qui charge un coureur. T'as pas vu cette vidéo?
Ah non.
Ah non, là, il faut retrouver ça. Alors je sais pas si ça retrouve facilement, mais l'an dernier, l'été dernier, je crois, elle fait beaucoup de. Il y a eu même des réactions dessus parce qu'une vache avait chargé un coureur qui avait voulu traverser absolument, et il a été obligé d'aller se planquer dans les fossés, dans un buisson et tout. Et tu vois la vache qui le charge, et justement parce que elle défendait ses veaux, parce que il était sur la route, tu vois, je crois qu'il passait sur la route, qu'il a voulu traverser le troupeau et qu'il s'est fait charger. Et alors ça, c'est un truc en randonnée, tu connais tout le monde a dit bah oui, bien évidemment, les vaches et tout, elles protègent leurs petits et tout. Mais c'est vrai que ce genre de réaction, tu vois, alors avec Seb Merel, on avait parlé du coucou, lui il avait rencontré un sanglier. Tu dis, tu es face à un sanglier, tu fais quoi? Bon, lui, il lui a parlé. Bon, c'est chacun son truc. Le Taz, il entend le loup, il sait pas si le loup, il l'a vu ou pas. Toi, t'as vu la vache. Je sais pas ce que tu peux voir sur la Diagonale des Fous, si tu verras des trucs, mais, normalement, moins de trucs imprévisibles. Il y a des pays où tu vois, où t'as des chiens qui attaquent, tu sais, ceux qui vont courir en Asie, etc. Ils ont des problèmes avec les chiens errants, les choses comme ça, là.
Quand j'étais parti en vacances en Corse, j'avais été courir, j'avais deux chiens, donc en fait, il y a plein de chiens effectivement qui se baladent. Et il y avait deux chiens qui m'avaient suivi pendant longtemps, mais c'est pareil, on sait pas trop quoi faire. Enfin, là pour le cas de la vache, j'estime que je suis chez elle, en fait, entre guillemets. Donc ce sont les coureurs, et c'est la même chose avec les sangliers ou avec les choses comme ça. C'est nous qui arrivons chez eux avec nos fringues fluo, nos lampes frontales et tout ça. Donc en fait, c'est pas Surtout sur des grands formats où on n'est pas à 10 minutes près. Donc effectivement, un troupeau qui traverse la route, on le laisse traverser et puis on attend d'être sûr. C'est pas pour les 5 minutes que ça va nous faire gagner d'essayer de passer derrière ou d'essayer de traverser les troupeaux. Je pense que pour moi, c'est important de respecter la faune et la flore qui est là. Et si les vaches, ça fait 365 jours qu'elles traversent cette route-là et nous, on arrive, c'est pas à nous de les bousculer, quoi. C'est nous qui gênons, entre guillemets.
Ouais. Ah oui, et puis je me rappelle, on avait parlé avec Vanessa Morales quand elle avait fait la course au Mexique, tu sais, chez les coureurs mexicains qui courent en sandales. Et ben, c'était les chiens errants là-bas qui attaquaient et tout. Elle avait eu des gros, elle avait eu des soucis. Puis il y avait les bestioles aussi. Je sais plus comment ils appellent ça dans le beau. T'as lu Born to Run? Il en parle. Tu sais, il y a des scorpions, il y a des bestioles à une tête la nuit et tout, avec un œil, etc. Toutes ces bestioles-là. Elle en avait parlé dans un épisode. Et c'est vrai que les chiens en avaient parlé. Et puis un ancien invité aussi. Benjamin qui avait parlé des chiens, mais lui non, sur Instagram il avait parlé des chiens en Asie, tu vois, il y a des zones et tout. Et puis moi j'ai fait un article il n'y a pas longtemps sur mon compte Instagram sur les chiens, et j'ai failli me faire attaquer il n'y a pas longtemps par un chien. Et à Rome il y en a un qui s'est fait, un coureur qui s'est fait bouffer par deux chiens, tu sais, il s'est fait attaquer, lui est mort. Bon, bref, ça arrive. Moi je suis très méfiant avec les chiens, tu vois. Je sais pas si je préfère dans mon enfant j'avais croisé des moutons quand on est allé voir au Mont Ventoux, pour ceux qui ont déjà fait monter du Mont Ventoux pour aller voir le lever de soleil. On était tombé sur un truc de mouton, un mur géant, je croyais qu'il y avait un mur avec des émeraudes qui brillaient, et en fait c'est les moutons, ça se trouve en plein milieu. Et ben allez, moi pour moi un mouton c'est pas très méchant, tu vois, donc je me m'inquiète pas. Mais là où je m'inquiéterais, c'est s'il y avait un chien, tu sais, un patou là pour les surveiller.
Ah oui.
Et ben ou là. Et ben franchement, je sais pas comment, tu vois, la réaction, parce que là j'aurais un peu la, tu vois, sur certains territoires, je serais un peu méfiant, et aussi en vélo, tu vois, en gravel, je me méfie beaucoup de ça en fait.
Oui. Oui, c'est vrai qu'en montagne les patous, il vaut mieux après ils sont il vaut mieux être vigilant, après ils sont dressés pour surveiller les troupeaux, donc en fait en théorie si on passe c'est que on s'approche pas trop du troupeau, mais effectivement, je me rappelle d'un été où on avait été à la montagne, donc je courais, et il y avait, donc les grandes brumes de montagne, le brouillard, on voyait rien, et en fait, je m'avance dans un chemin, et j'entends au loin le patou, je vois des moutons, demi-tour, je vais pas essayer d'aller voir, parce qu'après, ouais, c'est pareil, on est chez eux, ils sont, les patous, ils font leur taf, ils sont en train de surveiller le troupeau. Après, effectivement, les chiens qui attaquent en ville, ou ouais, moi, je me suis déjà fait sauter dessus par un chien à côté de chez moi, d'une nana qui était au téléphone avec son chien pas en laisse, et le chien m'a couché, quoi, clairement. Et c'est d'autres considérations, mais effectivement, dans des lieux sauvages, dans les animaux, c'est chez eux, et c'est normal que... Mais oui, c'est normal qu'on respecte et qu'on fasse attention, et que on les attaque pas, enfin on les attaque pas en termes de, enfin visuellement, mais en sonore, leur crier dessus, essayer de leur faire peur, c'est plus contre-productif qu'autre chose, je pense.
Ouais.
Donc on attend qu'ils aient fait leur travail.
Bon, renonçons au travail quand même, sur justement, on parlait de travail, parce que c'était aussi un peu le sujet. Tu dis des fois, d'aller courir, ça te débloque des problèmes, des choses comme ça et tout. Tu sens que ça te rend aussi une dynamique différente. Tu vois, entre un jour où tu vas courir à midi, un jour où tu vas pas, l'après-midi, tu sens que ça change les choses pour ton quotidien ou pas?
Alors c'est difficile à dire parce que je cours beaucoup, donc j'ai pas beaucoup de moments où je suis pas allé courir dans la journée, donc je pourrais dire que ça fait le ça fait le différence. Après je pense qu'il y a un côté un peu discipline qui se répercute après sur un caractère un peu plus général, et donc on peut retrouver dans le travail derrière, de se dire en fait il y a des fois on n'a pas envie d'y aller, ou on va faire des séances qu'on n'a pas envie de faire, et ça reflète des fois des choses au travail, en fait on fait des trucs qu'on a pas, qui nous font pas, des séances qui nous font pas forcément vibrer, on va avoir des parties de notre taf, même si donc si mes boss m'écoutent, j'adore mon travail, j'irai jamais dire le contraire, mais on va toujours avoir des petites activités qui vont forcément, on a des choses qui nous plaisent à fond dans notre taf, et des choses un peu moins. Et je pense que dans les entraînements, c'est de se dire on fait des entraînements pour servir pas une cause plus grande, mais un but un peu plus grand que juste l'entraînement, et se dire il y a des jours avec, il y a des jours sans. Donc des fois on va aller courir et ça va être pourri, ça va être une mauvaise séance, et en fait des fois on va aller on va faire un truc au taf et on va se dire ça le fait pas, je suis pas dedans, mais en fait c'est de savoir que c'est important de les faire quand même, de savoir, de reconnaître aussi que ça fait partie du processus, et que ça fait partie de, que ça sert quelque chose d'un petit peu plus large, Et c'est vrai que je réfléchissais la dernière fois au côté. Souvent, l'entraînement, on parle d'entraînement 80-20 en course à pied, où il faut faire 20% de trucs, de séances très dures et 80% de routine pour progresser. Et c'est vrai que je me disais que dans le taf, des fois, c'est presque un peu la même chose. C'est qu'en fait, on ne pourrait pas. Donc, moi, en plus, j'écris du code, donc il y a un côté un peu créatif de se dire on a des problèmes à résoudre, il faut qu'on arrive avec des choses innovantes, mais que. Des choses innovantes qui vont être plus difficiles, donc c'est plus on peut potentiellement prendre plus de plaisir à les faire parce que c'est des choses les plus créatives, mais en même temps on peut pas faire que ça parce que sinon on serait épuisé. Et c'est un peu la même chose avec la course à pied, de se dire si on fait que des séances très dures ou des séances des sorties très longues ou des et que en fait c'est pas donc ça fait partie du plaisir, on prend du plaisir à faire ces séances, elles sont dures, elles nous font progresser, mais il y a aussi toutes les petites séances de tous les jours qui sont des séances en routine et qui en fait nous confortent dans ce qu'on sait faire. Et je me disais que quand on bosse, c'est un peu pareil. Nous, on va faire forcément quand on développe, quand on code, on va faire des choses qu'on sait déjà faire, mais ça, il y a un côté c'est la routine, il y a la mémoire du muscle presque, de se dire ben en fait ça c'est un truc qu'on va répéter, on le fait plein de fois, mais en fait c'est aussi pour s'entraîner, pour connaître les choses standards, et puis aussi des fois on peut pas toujours être tout le temps à fond, donc en fait avoir aussi ces espaces où on fait des choses en routine qui nous rassurent, qu'on sait faire, et qui en fait sont assez fondamentales dans prendre du plaisir au quotidien, de se dire on peut pas être tout le temps vraiment enfin on peut pas être à fond tout le temps, être tout le temps en train de faire des choses complexes, des choses et en même temps, c'est quelque chose qu'il faut accepter quand on court et accepter quand on travaille, je trouve. Quand on court, on peut pas faire que des séances. Quand on court beaucoup, qu'on fait beaucoup de volume, sur une semaine où je fais 80 km, je vais faire à 80 km autour de chez moi, donc sur des chemins que je connais déjà, sur des choses. Mais ça fait partie de l'hygiène, la routine, apprendre la bio. La mémorisation de la biomécanique de la course à pied, toutes ces choses-là qu'on fait, qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. Et en fait, c'est parce qu'on les a répétées plein de fois qu'on sait bien les faire. Et aussi se rassurer, de dire, bon, voilà, aujourd'hui, moi, si je me lève et que je peux aller courir 3 heures là tout de suite, sans trop de prépa, en mode endurance fondamentale, mais c'est parce que j'ai eu toutes ces petites briques de course à pied répétées, 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 jusqu'à en arriver là. Et je pense que c'est aussi, quand on travaille, c'est aussi ces choses-là, c'est la répétition de plein de choses à travers le temps, et puis ces petits moments où en fait on va pousser un petit peu plus loin, on va aller chercher un petit peu plus loin, et on va faire quelque chose de nouveau, et ça va, on va avoir un petit déclic qui se passe dans l'apprentissage. Et donc voilà, l'apprentissage de l'artisanat du développement logiciel qui se fait comme ça et qu'on retrouve, je pense aussi dans la course à pied, de ce côté, il faut toutes ces séances de tous les jours qui vont pas être forcément sexy, qui vont pas faire très très bien sur Strava, parce que on n'a pas fait du 3,40 sur 10 km,
Ah, moi j'arrive pas
et
alors.
moi non plus mais voilà, qui sont et c'est souvent en plus un truc que je conseille aux gens qui commencent. C'est les gens qui commencent, on va dire sur ce travail, tout le monde, on a l'impression que tout le monde court vite, tout le monde court des grosses distances, et en fait, je dis souvent non, mais aller courir 10 minutes, c'est bien aussi. Enfin, si en gros, vaut mieux aller courir 10 minutes parce qu'on a que 10 minutes, ou parce qu'on y arrive que 10 minutes, que d'essayer d'aller super vite ou de faire un 10 km du jour au lendemain, parce qu'en fait, c'est pas ce qui va faire qu'on va tenir dans la durée.
Et je sais pas si tu as remarqué aussi, mais moi le parallèle je le fais aussi avec la gestion de projet qu'on peut avoir entre la gestion d'un projet, quel qu'il soit, et l'entraînement pour une course, pour un événement. Tu vois, moi par exemple, ça peut être pour lancer un produit en ligne, tu vois, ou si là je me remettais à écrire mon e-book, là, un truc qui me repasse par la tête, et ben je me dis, c'est exactement pareil, tu vois, je vais y mettre peut-être 10 semaines de prépa, tu vois, sur mon truc, affûté dans la dernière semaine, tu sais, il y a toutes les corrections et tout, et puis ça sort, et puis derrière après, décompresse, on retrouve, tu sais, du jus, refaire ça et tout, tu sais, t'as un peu le stress, alors qu'il n'y a pas le stress physique, et quoique, un peu physique quand même sur certains lancements. Mais tu vois un peu cette ce rythme là. Alors je sais pas après toi ça dépend comment tu travailles, si, par rapport au projet, si tu gères ou pas des choses. Mais moi j'ai vraiment cette similitude là en me disant bah tu vois je peux me faire des blocs, je peux organiser mon truc. Moi j'aime bien les blocs de 10 semaines, tu vois 10, 12. 10 semaines prépa, 2 semaines derrière de récup derrière et tout. Et ben je me suis rendu compte dans mes projets, je fonctionne exactement de la même manière depuis depuis que je cours.
Oui, ce qui est intéressant, c'est de se dire, comme ce que je dis, il va y avoir le avant la course, tu vas avoir ta semaine d'affûtage où tu vas un peu, enfin 2 ou 3 semaines, enfin ça dépend de la course, mais où tu vas un peu réduire le volume et de se dire que c'est pas tout comme en fait dans ta course, c'est pas la dernière semaine que tu vas te préparer, c'est pour un projet, c'est pas dans la dernière semaine que tu vas tout faire, sinon
t'es mort.
Sinon la livraison se passe pas très bien. Donc cette idée de oui, il faut avoir fini au moins une semaine avant la fin, enfin avant la date butoir, parce que sinon en fait si on fait tout la dernière semaine, il y a forcément des choses qui vont mal se passer. Et c'est pareil, oui, que tu prépares une course ou un projet, il faut travailler du jour 1 et puis se laisser effectivement les dernières semaines pour prendre un petit peu d'air, un petit peu de recul et puis corriger les dernières choses s'il y a besoin. Mais oui, c'est pas dans la dernière semaine effectivement qu'on prépare un marathon, c'est pas la semaine d'avant qu'on va tout faire. Et si on est en retard sur sa prépa à une semaine de l'événement, ça sert à rien d'essayer de tout caler. Je pense que sur un projet c'est pareil, si on est en retard à une semaine de l'événement, qu'on essaie tout de tout pousser à la dernière minute, pas forcément le plus efficace.
Bon, je dirais rien, mais dans ma carrière de développeur en agence web, c'est des choses qui sont arrivées quand même. je dirais rien parce qu'on a fait des livraisons de sites 10 minutes avant la présentation officielle, hein, sur des trucs. Donc, il est arrivé des trucs des fois. On avait juste un truc, c'est qu'on demandait juste à nos clients de ne jamais lancer le site le vendredi. c'était le truc. C'est-à-dire, non, vendredi, on lance pas le site. Jamais le vendredi. C'était le truc qui était interdit. Mais c'est vrai que t'as raison et c'est vrai qu'après ça fait des gros rushs. Et tu vois, moi quand je compare le rush préparation projet en disant derrière on a besoin de souffler, parce que enfin tu vois après les courses physiquement on n'est pas prêt à repartir si facilement que ça, faut un moment pour se reposer. Et sur les projets aussi où t'as un peu de pression et tout, je trouve que c'est un peu pareil. Et moi je me suis rendu compte que en fait les deux je peux travailler de la même manière comme je m'entraîne et comme je travaille, tu vois. C'est vraiment le parallèle est intéressant. Et tu vois, et t'as vraiment raison de souligner la discipline. Tu parlais de la discipline, mais c'est vrai que c'est un truc. Et en plus, en télétravail, si t'es à des horaires un peu souples, et moi, en entrepreneur, où je suis mon propre patron, et où je peux faire à peu près ce que je veux, je m'engueule. Et attends, sincèrement, des fois, je suis vraiment pas sympa avec moi. Des fois, je m'engueule et tout, je me dis, putain, si franchement, j'ai les prud'hommes pourraient m'envoyer, ils me diraient, t'as vu à quelle heure t'as travaillé, t'as vu à quelle heure tu te fais attaquer, et tout, ton gars, là, c'est pas normal. Mais la discipline, c'est vrai que la course apprend la discipline. Et là, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est vrai que dans le travail, surtout en télétravail, quand t'as pas des horaires très stricts, etc., là, c'est vrai que il y a des parallèles qui sont super intéressants, je trouve.
Ouais, ouais, complètement. C'est vrai que tu. Oui, c'est vrai qu'en plus en télétravail, bon après moi j'essaie de me caler à mon rythme de famille, donc j'ai quand même j'ai des horaires souples, mais j'essaie de me. Enfin, en fait, c'est de l'autodiscipline de me dire, enfin effectivement, je pourrais très bien me lever à 10h du mat et puis bosser jusqu'à 1h du mat et personne. Bon, il y a toujours les rendez-vous clients et tout ça, mais ça serait possible à faire. Après, donc moi je me discipline comme ça, donc sur le rythme de ma famille. Mais après c'est aussi parce que c'est pas un truc, c'est un truc je pense qui fait un peu rêver quand t'as la vingtaine, de te dire allez j'ai les horaires que je veux et je dors jusqu'à pas d'heure et tout ça, alors qu'après quand tu t'assagis, non pas que tu vieillis, quand tu t'assagis un
c'est
peu
un bon et, c'est un très tu...
Bon. Et tu te rends compte que voilà, il faut quand même un cadre et mais je pense que oui, c'est pareil sur la course à pied. Tu peux aussi te dire bon, je fais pas de programme, j'y vais un petit peu à l'arrache, j'ai pas besoin de prépa pour faire mon marathon. Et puis en fait le moyen d'apprécier, en fait je pense la finalité est pas la même. C'est souvent la façon dont j'appréhende par exemple les courses, c'est que je me dis je vais arriver à la fin de ma course et pas être au bout de ce que j'aurais pu donner, tu vois. Donc de me dire je me suis suffisamment préparé pour pas parce que c'est j'en avais parlé une fois avec un gars qui était coach et je lui avais dit Non, mais moi, je préfère prendre une heure de plus, mais avoir profité de ma course, que d'être dans le mal pendant toute ma course, mais d'avoir gagné une heure et mieux. Ah, c'est bizarre. C'est pas ce que les gens disent d'habitude. Et en fait, bah, non, moi, je préfère m'être bien entraîné, d'avoir bien planifié ce qui va se passer, d'arriver le jour de la course, de profiter et bah, pas aller dans la zone rouge et me dire, bah, en fait, j'ai rien vu de ma course, j'ai juste souffert pendant tout le long. Et puis, bah, et donc, j'arrive toujours, en fait, au bout de ma course, en me disant, j'aurais pu donner plus, si j'aurais pu faire un meilleur temps, mais en même temps, j'aurais peut-être moins profité. Et voilà, quand on enfin aller faire des courses là en Corse, ou cette année je vais aller à La Réunion, bah, en fait j'ai quand même envie de me dire, si je fais La Réunion, j'ai envie de profiter de ma course, de profiter des paysages, de l'ambiance et tout ça, et pas d'être en mode bon allez, je vais aller me mettre dans le mal derrière. Et donc c'est pour ça que bah, y a de la discipline dans la préparation, de se dire bon bah je veux me préparer pour être bien le jour où je vais y arriver. Parce que c'est vrai qu'on en voit, hein, des gens qui sont entrepreneurs et qui font entre guillemets à l'arrache et qui arrivent quand même à s'en sortir, à sortir des projets, ou des gens qui du jour au lendemain se disent bon bah la semaine prochaine je fais un marathon. Enfin, on les voit, hein,
C'est
sur
très
YouTube,
tendance.
je vais faire un marathon sans prépa, je vais faire
Un
mais en
Ironman
fait
sans prépa. J'ai vu des gens qui font des Ironman sans prépa.
et en fait ouais, mais je me dis quel est le plaisir, en fait, quel est le plaisir du, parce qu'il faut quand même bah, déjà il y a un côté plaisir dans l'entraînement, je pense, et le côté quel est le plaisir de la finalité si on y va et qu'on souffre, qu'on fait ça dans la douleur. Et bah, pour la gestion de projet, tout ça, c'est un peu pareil. C'est bien d'avoir un plan, d'être discipliné, de te suivre, parce que pour que ça se passe pas dans la douleur. Et voilà, on a fait des projets où effectivement c'était un peu tout en dernière minute, avec pas trop de gestion de projet structurée. Et en fait maintenant on se rend compte que bah non, quand on arrive et qu'on a vraiment bien tout cadré, qu'on suit une certaine discipline, que bah justement on va pas faire que quand on est développeur, bah, ce qu'on aime bien, c'est créer des nouvelles choses, faire des innovations, vraiment des trucs créatifs. Mais en fait, les trucs créatifs, il faut que ce soit fait dans un cadre qui est sain. Donc, bah, on a des tâches un petit peu plus routinières, un petit peu plus pas ennuyantes, mais ennuyeuses, mais des choses qui sont moins sexy, qui sont moins créatives. Mais en fait, ça nous permet de prendre plus de plaisir quand on va faire les parties créatives, et de pas livrer le projet dans la douleur. Et je pense que c'est des choses qui sont importantes, parce que c'est facile de. Nous, quand on a des projets, c'est un peu. Voilà, il faut faire un applicatif, il faut faire un soft, enfin, donc un logiciel, et c'est une super idée, il y a plein d'innovations. Et donc, en fait, on va vite avoir tendance à un peu vouloir faire les parties sexy du projet, et puis on se dit, bon, bah, les parties. Enfin voilà, les parties un peu moins sexy, mais qui permettent de travailler dans un cadre qui est safe et de prendre du plaisir à développer, bah, faut les faire quand même, en fait. Faut se dire, bah, ça c'est un cadre, on a un cadre qui est comme ça, et je pense que l'entraînement c'est pareil. On va avoir bah, effectivement, on se dit, ah ouais, trop bien, la diagonale des fous, bah oui, mais il faut se mettre maintenant à faire des séances qu'on va pas forcément aimer, mais pour se dire, bah au moins le jour où je vais être à la course, je vais prendre du plaisir à faire la course, parce que j'ai eu de la discipline, j'ai eu de l'organisation dans tout ce qui m'a amené jusqu'à cette course. Et je pense que, enfin, moi, c'est quelque chose en tout cas qui est hyper important pour moi de. C'est pour ça que je fais pas non plus beaucoup de courses dans l'année. Tu vois, les gens aussi qui vont faire 15 ultras dans l'année. Moi, j'essaie de. Tu vois, là, j'en ai deux dans l'année. Et je me dis, bah, en fait, parce que je veux arriver là à Osgore et me dire, bah, je me suis bien préparé, je vais prendre plaisir, je vais aller au bout de ce que je peux donner. Après, je vais avoir le temps de me reposer, de recadrer un peu pour préparer la diag, et le jour de me dire, j'espère, après, il se passe toujours de l'inattendu dans les courses, mais au moins je me serais préparé du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais, avec ce que je savais. Et je vais essayer de profiter au max plutôt que d'essayer de tout faire dans la douleur.
C'est une bonne philosophie. Et j'aime bien ta philosophie de dire je préfère aller une heure moins vite et profiter au max du truc que de dire je suis toujours dans le mal et tout. Parce que moi, tu vois, c'est un truc que j'avais vu sur le gravel et gravelman, tu vois. C'est-à-dire des trucs comme ça. Moi, je suis super content de mon gravelman parce que tu vois le Paris-Deauville, parce que j'arrive au coucher de soleil à Deauville, sur la plage. Alors, je me suis fait. je me suis donné un peu de mal pour arriver pile à l'heure au bon endroit, tu vois. Même si la course était compliquée, etc., que j'ai pas fini par la trace tout. Mais tu vois, le bénéfice de ma course, c'est d'être arrivé, d'avoir vu le coucher de soleil sur la plage. Alors qu'il y en a certains, tu sais, qui étaient encore sur les chemins, qui sont arrivés de nuit, ou alors qu'on boostait et puis qui pendant le coucher de soleil, ils étaient au camping en train de se reposer, de laver le vélo, tu vois. J'ai dit mais on n'a pas le même plaisir. Mais après, chacun a son plaisir. Tu vois, mais
oui, bien sûr,
ce qui est bien, c'est que tu témoignes, tu dis tout. Bah, moi, mon plaisir, c'est ça. Et je pense que ça va rassurer un paquet qui écoute. Parce que, il y en a qui osent pas le dire. Non, mais, attends, il y a des entraîneurs, tu vois, que son entraîneur, avec lequel tu parlais, soit surpris. C'est parce que c'est aussi la logique de compétition, de faire le meilleur temps, etc. Et ce côté, je trouve, est super rassurant. Ce côté profiter. Dire, on peut aller moins vite. On peut attendre que la vache, elle bouge du truc. On peut passer un quart d'heure au sommet de la montagne pour regarder le coucher de soleil ou le lever de soleil. Sur des courses, si t'as la Réunion, tu vois, moi, c'est un genre de truc. Je me dis, bah oui, tu vois, moi, je fais des photos sur des trails. J'arrive au sommet de la montagne, je fais une photo, je fais un selfie avec les, j'ai une photo de selfie avec les organisateurs des courses, tu sais, avec les gens qui sont les bénévoles au sommet. Je discute avec eux et tout. Les autres, ils tracent. Ils disent, mais allez-y, allez-y. Je dis, mais non, laissez-moi, je prends quelques, ça me change rien. De toute façon, je joue pas la gagne. Attends, j'arrive 60e sur 128. Oh, j'ai bien le temps de faire mon selfie au sommet et ça me fait des beaux souvenirs en plus, tu vois. Et j'aime bien ta philosophie que t'as partagée.
Bah c'est ce que tu dis, c'est des bons. Au final, les souvenirs d'une course, c'est pas forcément le, enfin, en tout cas sur du long, c'est pas forcément le temps que t'as mis. C'est plutôt, enfin ouais, moi de la Restonica par exemple, le lever de soleil. Je me rappelle, on a monté, en fait, on arrivait vraiment tout en haut d'une montagne, et le soleil se levait, il y avait une grande mer de pierres avec des lacs de montagne, et c'était magnifique. Et en fait, c'est plutôt ces souvenirs-là que je garde, ou en fait, des gens que j'ai rencontrés, et puis potentiellement dans les gens que j'ai rencontrés. Donc j'ai rencontré des gens sur la course, on a fini la course ensemble, et je me rappelle de ces gens-là. Je me rappelle d'un ravito qui était dans une bergerie, on a parlé avec des gens et tout ça. Et en fait, potentiellement dans 5 ans, je me rappellerai pas de mon temps que j'ai mis, mais par contre, ça, c'est des choses dont je me rappellerai potentiellement toute ma vie. Ou l'anecdote de la vache, c'est un truc que je me rappellerai tout le temps. Et en fait, alors que potentiellement dans 1 ou 2, je me rappellerai plus du temps que j'ai mis à la Restonica. Donc en fait, c'est essayer de compresser le temps, essayer d'aller plus vite et être dans la douleur et pas profiter et pas se créer des souvenirs et effectivement pas prendre, comme tu dis, ce quart d'heure au ravito, ce quart d'heure au ravito avec les bénévoles, discuter, créer. C'est des choses, enfin, je trouve que c'est dommage de les rater, parce que ça fait partie de l'expérience. Et comme tu dis, effectivement, on joue pas la gagne. Je sais très bien que je serai jamais podium sur des ultras. Donc, en fait, je me dis, autant profiter et puis que j'arrive, comme tu dis, 200 sur 220 ou que j'arrive 170 sur 220, en fait, je m'en fous. Et même si je dis souvent, même si j'arrive dernier, je m'en fous. Enfin, moi, je suis là pour faire le trail, je suis là pour me faire plaisir, je donne le max de ce que moi je peux donner, et j'essaie de me créer des souvenirs, de rencontrer des gens et de passer un bon moment et de me dire que si j'arrive au bout et que je suis dernier, je suis dernier, quoi. Souvent, voilà, je fais des trails, pense-moi avec ma chérie, et donc, au début, on faisait des trails, elle était un peu en mode, ouais, mais je veux pas que, enfin, tu me ralentis, enfin, je te ralentis, je me sens un peu coupable, moi, je m'en fous, en fait, je suis là pour venir faire un trail avec toi, je m'en fous de qu'on finisse dernier. Si on finit dernier, mais qu'on a passé le trail ensemble, c'est vachement plus important que ma cote bitrail, quoi, je veux dire. Ce qui est un autre débat, mais c'est vrai que ces cotes, tu vas faire un trail pour le plaisir, pour accompagner quelqu'un, et puis en fait, tu vas te retrouver dans des cotes bitrail, et après, t'as des gens qui pourraient être un peu impactés par ça. Donc, après, moi, ça me touche pas, mais c'est vrai que j'avais déjà parlé aussi sur Internet de ces trucs-là, de se dire, on est aussi dans des systèmes de cote UTMB, cote bitrail, cote ITRA, cote machin, où en fait, même sans avoir envie, on se retrouve dans un système de performance, de points, de tout ça, et te dire, non, moi, je veux juste faire le trail avec mes potes à côté de chez moi pour accompagner quelqu'un qui fait sa première course, des choses comme ça, et puis, tu te retrouves, ta cote bitrail qui va descendre, ta cote UTMB qui va descendre parce que t'as pas fait un temps XYZ, et je trouve que c'est, moi, je trouve que c'est dommage d'être focus sur ce genre de choses, et c'est vrai que quand, Bah, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est une fois j'avais, donc je sais pas si tu vois que c'est Tommy Reeves,
Pas vraiment, non.
l'athlète américain. Donc c'est un athlète américain qui fait de l'ultra aussi et qui a eu un cancer des poumons hyper dégénératif et qui a passé 4 mois dans le coma, tout ça. Et il est passé chez Rich Roll et il avait dit une phrase. Il avait dit bah en fait, si tu arrives à la fin de ta vie et que le seul truc que tu as fait, c'est d'avoir un bon temps au marathon, et ben ça vaut pas grand-chose ta vie. Et en fait, c'est ça que je trouve. Enfin, ça m'avait vachement touché. Et il y avait et justement, j'en parlais avec Max qui a fait l'Infinity Trail, le record, et qui disait bah en fait, ils ont fini 60 tours ensemble. Donc ils ont fait, je sais plus, enfin ils ont fait un paquet de tours ensemble.
Ouais, j'ai vu les
Et ils se
images,
sont
ouais.
dit, on va battre le record de France et on s'arrête. Et en fait, je trouve ça. Et donc, en fait, personne n'a gagné la course parce qu'il faut qu'il y en ait un dernier qui fasse un tour tout seul. Et je trouve ça, ce que je lui disais, je lui fais, je trouve ça plus beau d'avoir été tous ensemble le chercher et de vous être arrêtés plutôt que de dire, bah, t'en as un qui dit, bah non, mais moi, je veux être le gagnant. Et je trouve que c'est plus fort en termes d'expérience humaine. Et c'est sûrement un meilleur souvenir pour lui parce que dans 10 ans, il se rappellera peut-être plus du nombre de tours, mais il se rappellera, bah, en fait, on a été ensemble le chercher, on s'est arrêté au record de France et ce truc. Ce truc humain est hyper important, je pense. Enfin, en tout cas, je trouve, dans la course à pied.
Ouais, mais je trouve aussi, et je suis d'accord avec toi hein, sur le mode de sport, et c'est vrai que on a chacun notre manière de vivre le sport et tout. C'est peut-être aussi le fait, je pense sur le trail, sur ces grandes distances aussi, sur ces très longues distances, où finalement le temps il devient très anecdotique. Comparé à quelqu'un qui fait du 5 ou du 10 et qui va être sur son record, ou même du marathon, qui il faut que je batte mon record et tout. Et je l'ai fait l'an dernier. Hein, il y a un an, je faisais mon semi-marathon, et je dis, ouais, j'ai explosé mon record de 5 minutes et tout, je suis super content, etc. Mais c'est vrai qu'au final, ça reste très anecdotique, ces histoires de temps. Il y a plein de facteurs qui jouent et tout. Alors que les souvenirs des gens que tu peux croiser, tu vois, même sur mon truc en vélo, quand j'ai fait mon petit gravel tour là, en vélo, mes souvenirs de m'être arrêté, manger un flan à tel endroit, d'avoir mangé mon flan à tel truc, d'avoir dormi dans la forêt, tu vois, des choses comme ça. C'est vraiment les souvenirs que je vais retenir. Autre que le temps, que le fait que j'ai fait tant de kilomètres, que j'ai roulé à telle allure en moyenne, etc. Et c'est vrai, t'as raison. Moi, je trouve que on peut se créer des jolis souvenirs. Et tu vois, j'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien les gens aussi qui parlent de micro-aventures, tu sais, de tout ça, parce que ils sont aussi dans cette recherche-là. Moi, aller courir au lever du soleil, et boire un café au lever du soleil le matin. Et vivement que ce soit le printemps quand même. Avant que ma fille se réveille, avant que tout le monde se réveille à la maison, tu vois, et tout. Et je me dis, avant, tu vois, quand tout le monde dort, moi je vais boire mon café au sommet de la petite montagne. Et je redescends à la maison et je dis, bah, j'ai couru, j'ai pris un bon moment et tout. Et ben pour moi, c'est des vrais bons souvenirs, tu vois, que de courir, ça m'a permis d'avoir aussi. Mais qui en plus lance bien ma journée, tu vois, après pour travailler et tout. Je me sens. Le jour, j'ai publié une petite fille qui dansait, j'ai dit, c'est que. Tu sais, on danse quand on revient de la course. Je sais pas si t'as cet effet-là, tu sais, cet effet un peu. Quelqu'un m'a dit, ouais, moi je me sens. Alors, ça fait un peu polémique sur mon compte Instagram parce qu'elle a dit, moi je me sens supérieure. Elle a dit, c'est une boutade parce qu'il y a des gens supérieurs à quoi et tout. Mais en fait, je pense qu'elle voulait dire, surtout, je me sens forte. Tu vois, ce truc de dire. Et je sais pas si toi tu l'as ressenti, mais de dire, bah cette sortie elle me donne confiance, je me sens plus mieux dans ma tête. Tu vois, je suis capable de faire des choses et derrière, je peux attaquer le boulot avec plein d'énergie, avec plein de confiance, etc. Je sais pas si tu le ressens toi ça.
Ouais, après, je suis pas quelqu'un, je suis pas trop trop du matin, donc c'est vrai que je vais pas beaucoup courir au saut du lit. C'est plutôt ma chérie qui est du matin, donc c'est elle qui court le matin. Après, effectivement, quand je le fais, je le fais parfois, c'est vrai que ça te donne un coup de boost et t'as pas envie d'y aller. Et en fait, tu te sens mieux. Tu te sens mieux. Après, je pense qu'il y a hormonalement, il se passe plein de choses quand tu vas courir et après, tu vas mieux pour la journée. Après, oui, ça te. Je pense que là où ça booste, et effectivement ce côté supérieur, je pense que c'est pas un, c'est tu te sens fort parce que tu l'as fait. Tu te dis bon bah en fait il pleut, t'as pas envie d'y aller, mais tu y vas quand même. Et tu te sens plus à même de faire des challenges. Et je pense que c'est aussi des choses qu'on retrouve dans les longues distances et qui se reflètent après dans le caractère des gens, c'est que tu Il y a plein de moments où tu as envie d'arrêter, en fait. Il y a plein de moments où tu te dis, bon, bah, de toute façon, j'ai pas de sponsor, j'ai pas de podium, j'ai rien. De toute façon, j'en ai marre, je peux m'arrêter là, quoi. Et d'arriver un peu Se dire ok, bah je suis devant un truc que j'ai pas envie de faire, devant un truc que j'ai envie d'arrêter, mais d'être d'aller un peu combattre cette combattre son envie d'arrêter, combattre son justement ouais, ce fait de se lever le matin, c'est presque c'est dans la même idée, c'est on met son réveil, ça sonne et on se dit bah, en fait il y a rien qui me force à me lever et à y aller. Et c'est de la force de caractère. Et après ça c'est pour ça après quand il y a des choses qui arrivent dans la journée, au travail, dans la vie de tous les jours, on se dit bah on n'a pas envie, c'est compliqué, mais ça sert à un but un peu plus grand et on gagne un peu en confiance en soi, je pense. C'est aussi ça de se lever le matin et puis un côté de côté accomplissement, on dit bon bah j'ai déjà fait quelque chose avant d'aller travailler, j'ai fait quelque chose que je voulais peut-être pas faire en plus. Et qui permet après de se donner un petit ce supérieur, je pense c'est pas un, c'est effectivement c'est pas supérieur aux autres, mais supérieur à comment on se serait senti si on l'avait pas fait. Je pense
Exactement.
qu'il y a un petit boost de confiance en soi où en fait on va faire quelque chose à reculons, on le fait quand même, on se sent bien, on a toutes les endorphines qui ont été qui sont lâchées dans le corps aussi et voilà, je pense qu'il y a ça il y a ça qui se passe.
Ouais. Et moi, tu sais, j'utilise beaucoup la course aussi, et avant les coachings, avant les rendez-vous, tu sais, et justement pour ce boost de confiance en fait. Et aussi, j'utilise dans un autre sens, c'est que bah des fois quand il y a des trucs qui se passent pas bien dans le boulot, qu'on se plante sur un truc, ça marche pas très bien, quoi, pas aussi bien que ça. Et ben je vais chercher aussi dans le sport, la course, en me disant ouais mais un jour j'ai raté ce truc-là, un jour j'ai pas bien fait, puis le lendemain ça s'est mieux passé, une séance du jour ne fait pas la séance du lendemain, tu vois, toutes ces notions-là qu'on retrouve aussi, et c'est là où je trouve qu'on a
Ah,
beaucoup de
clairement.
parallèles.
Ah oui, clairement, c'est vrai que des fois on va faire des séances et ça se passe pas bien et on se dit mais pourquoi est-ce que je fais ça? Je pourrais être en train de faire autre chose et en fait effectivement c'est ça se passe mal un jour pour une raison X ou Y, on n'est pas dedans et on avait que j'ai vu cette phrase-là il n'y a pas longtemps sur Internet. Si aujourd'hui vous avez donné 50%, mais 50% c'est tout ce que vous aviez à donner, bah, vous avez donné tout quoi. Et en fait c'est quelque chose aussi que dans la vie professionnelle qu'on a, c'est en fait bah il y a des jours où on va être au taquet du matin au soir, et on est sur un super super bon mood et le lendemain bah, on peut être un peu moins dedans, mais en fait ça fait partie. C'est aussi accepter. Enfin, accepter pour soi, mais accepter aussi pour les autres, hein, de se dire, bah, en fait, on travaille avec des gens et peut-être que ces gens-là, bah, aujourd'hui, ils sont pas dedans et pour une raison qui a rien à voir avec, qui a rien à voir avec le travail, qui a rien à voir avec leurs compétences et qui a rien à voir avec leur envie. C'est juste que bah, c'était pas entre guillemets, c'était pas le bon jour. Et en fait, c'est de savoir que cette séance de sport, tu l'as. Je sais pas, tu vas courir, tu te dis, allez, aujourd'hui, je veux battre mon RP sur 5 km ou peu importe. Ben, en fait, ça se passe pas. Et ben, en fait, peut-être que c'était pas le bon jour, mais ça veut pas dire que tu y arriveras pas une autre fois ou que t'es incompétent. C'est peut-être que ce jour-là, c'était pas le jour où il fallait faire ça. Et il y a effectivement plein de raisons externes qui peuvent expliquer le fait que tu sois pas dedans un jour et de savoir ça.
Puis des fois, t'as le vent contraire. Des fois, tu prends le vent de face. Hein.
Voilà.
Surtout en Bretagne. Enfin, je voudrais pas dire de méchanceté des Bretons, mais.
Non, bah c'est ça. Quand on fait du vélo, il est toujours de face, quel que soit le sens dans lequel on va. C'est incroyable. Toujours le vent de face en Bretagne.
Alors, pour l'anecdote, quand j'avais fait mon truc en vélo l'an dernier, j'ai croisé des gens qui m'ont dit, effectivement, on avait toujours le vent de face. Alors moi, j'avais le vent de face parce que, tu sais, comme je suivais, j'allais direction la mer. On me dit, oui, mais c'est la mer qui remonte le long de la Loire, tu prends le vent de face. Et je croise des gens et je leur dis, mais vous, dans le sens dans lequel vous avez fait, vous devez l'avoir de dos. Ils me disent, bah non, on l'a aussi de face. Et en fait, c'était effectivement dans les zones comme ça, tu disais, bon, bah, ça arrive. Il y a des trucs, on comprend pas. Il y a des mystères. Ça fait partie des mystères. J'avais une dernière question quand même pour toi. Tu partages beaucoup d'informations sur Thread, Fred. Je sais plus comment on dit, tu vois. Bah, moi, à la maison, on l'appelle Fred. Donc sur Fred, le nouveau réseau Meta. Pourquoi tu partages autant? En fait, qu'est-ce que tu aimes dans le partage? Parce que tu donnes des conseils. Tout à l'heure, tu parlais de la histoire des 10 minutes de course. Tu disais aussi, on voit ton volume de course, mais c'est pas forcément. T'as pas commencé comme ça. Et un jour, j'ai vu une info et qui était. J'ai oublié la question. Tu disais que tu avais réussi à faire un cours en zone 2 Full Sensation. C'est pas longtemps, ça. C'était quoi, la semaine dernière? T'as sorti un truc comme ça?
Ouais, peut-être ça, ouais.
Ouais. Et je trouve que c'est, pour ceux qui galèrent un peu, bah, ça montre déjà que t'es pas un débutant. Donc, il a fallu un peu de temps pour arriver à sentir cette sensation-là, arriver à le faire. Je trouve que c'est vachement intéressant. Mais pourquoi tu partages, en fait, tout ça? C'est, ouais, pourquoi? Voilà, juste pourquoi.
En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de le problème des réseaux sociaux, c'est que ça aide pas forcément à la confiance en soi de plein de gens parce que les gens vont partager. Enfin, tu vas sur Instagram, t'as l'impression que tout le monde est en vacances à la montagne, en train de faire des trails de 160 bornes, et puis a réussi à faire $1 million en un mois. Et je trouve que c'est pas quelque chose, c'est pas de la vraie vie, quoi. C'est pas les vrais. C'est pas comme ça que ça se passe. Effectivement, il y a des jours où ça va pas. Il y a des jours où on se foire. Et puis je cours depuis longtemps. Je fais des longues distances. Et en fait, je sais plus, je disais il y a pas longtemps. Ben en fait, des fois, je fais courir 3 bornes et ça va pas, quoi. Et ça, c'est des choses qu'on voit pas. Et donc j'essaie de partager parce que en fait je me suis aimé même tout le monde et que effectivement ça fait longtemps que je cours et donc aujourd'hui je vais faire des ultras c'est pas un contre-pied, c'est plutôt j'essaie de ramener un peu de bienveillance et un peu de second degré, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de il y a aussi beaucoup de sérieux dans les gens qui font de la course à pied et d'essayer de ramener un peu de. Enfin, pour moi, ça reste un loisir. C'est pas quelque chose sur lequel on va se prendre la tête. C'est quelque chose quand même de fun. Quelque chose de fun et c'est quelque chose que plein de gens y arrivent pas. Et donc effectivement, mes blagues sur le yoga, c'est de l'autodérision parce que je fais ça, je suis nul et en fait je m'en fiche. Je prends du plaisir et je trouve que c'est ça qui peut manquer souvent, c'est de se dire je sais plus quand je l'ai redit, mais en fait on a le droit d'être nul, mais de bien aimer le faire. Ouais. Et ça, c'est pas des discours qu'on entend suffisamment, je trouve, parce qu'on a quand même des gros problèmes de santé généralement, de sédentarité, de manque de sport et c'est pas en mettant la pression aux gens en partageant que y a d'autres gens comme eux qui sont nuls à des trucs, d'autres gens qui galèrent des fois, d'autres gens qui c'est plutôt comme ça, je pense, qu'on amène les gens à pratiquer. Enfin, j'ai l'impression les gens qui vont se mettre à la course à pied, si on est direct en train de leur parler du marathon, clairement ils vont s'arrêter, et surtout dans des cadres aujourd'hui où on veut tout de suite. Donc en fait, les gens qu'on disait tout à l'heure, un marathon sans entraînement, Ironman sans entraînement, non, c'est pas c'est si vous commencez à courir, faites pas un marathon dans 2 semaines, c'est pas la bonne ça va être une belle performance et bravo, mais c'est pas une pratique santé et plaisir de la course à pied. Et moi, je fais beaucoup de sport parce que je prends beaucoup plaisir à le faire et que je fais ça aussi dans une optique de santé. J'ai envie que des gens aient ça aussi et qu'ils relâchent un peu la pression sur leur chrono, sur leur pratique et qu'ils de retrouver un peu ça. Donc voilà, essayer de. Je partage beaucoup. J'essaie de partager des choses un peu ce qui me passe par la tête, et puis aussi des trucs un peu plus sérieux de temps en temps, mais qui surtout pour débunker les croyances, les trucs un peu les croyances limitantes, les gens qui vont dire que courir c'est dangereux pour les genoux, que qu'il faut pas courir tous les jours, que il faut prendre toutes ces choses là, toutes ces pensées un peu limitantes des gens qui vont les bloquer et qui vont justement faire qu'ils vont pas retrouver ce plaisir dans le sport. Ouais. Qui est, je pense, hyper important.
Et puis alors, t'as partagé un truc hier qui est juste. Alors, je mettrai le lien direct pour que les gens le retrouvent, parce que si jamais tu désépingles. Mais l'histoire de la musculature de l'homme de 40 ans, de 74. Alors, pour raconter, pour le truc, c'est dingue quand même. Un triathlète de 40 ans. Donc, c'est quoi? C'est des coupes. Je sais pas comment on appelle ça.
Des coupes de la cuisse. Ouais.
Coupes de la cuisse. Un homme de 40 ans qui fait du sport. Un triathlète de 40 ans. Un triathlète de 74 ans. De 70 ans, c'est ça?
Ouais. 70 ans. Ouais.
70 ans. Ils ont quand même la même cuisse, quoi. On dirait qu'ils ont la même cuisse de musculature. Et au milieu des deux photos, il y a celle d'un sédentaire de 74 ans, où là, on voit quand même que c'est quand même vraiment pas ressemblant.
Ouais.
Et c'est vrai, et c'est dingue. Juste cette illustration, quand même, sur l'histoire de, bah, du muscle, de l'entretien, de comment on peut bien vieillir et tout. C'est juste hallucinant. Et en fait, souvent, et des fois, tu en parles, tu dis, oui, tu vas chercher des études. L'autre jour, tu posais la question de savoir si, en tant que coureur, on allait chercher des études, etc. C'est un côté qui te passionne, c'est un peu, non?
Ouais, parce que je pense qu'il y a beaucoup de. Donc ouais, j'aime bien les études, et j'aime bien aussi remettre en question ce qu'on sait, ce que moi je sais, et de me dire probablement les trucs il y a, enfin je sais pas, 10% des trucs que je pensais il y a 5 ans c'était faux, et dans 10 ans j'aurais sûrement changé sur plein de choses. Et de ce, enfin, un des trucs hyper important quand on fait du sport ou quand on se préoccupe de sa santé, c'est justement de se cultiver, mais enfin de se renseigner, de s'éduquer en fait au sport. Et et ouais, c'est vrai que le fait de vieillir en bonne santé, c'est aussi important pour moi. C'est un sujet que, enfin, c'est un peu ça revient le temps au marathon, où on entend des gens, oui mais je vais pas prendre du muscle parce que si ça va me faire perdre 3 minutes au marathon, ouais, mais si t'as gagné 3 minutes au marathon mais que tu peux plus te lever de tes toilettes à 70 ans, c'est dommage, quoi. Et c'est pour ça que je partage. Je trouve ça important aussi. Parce que c'est pas toujours facile à lire, en plus, les études scientifiques et tout ça. Donc, un peu essayer de partager des choses un peu visuelles. Et, donc, ouais, j'essaie de me renseigner, de savoir. Et justement, un peu de casser ces trucs la course à pied, c'est mauvais pour les genoux. Les croyances. Les croyances limitantes que vont avoir les gens sur le sport et la course à pied, et effectivement comment ils peuvent entre guillemets vivre mieux, quoi, de se dire le sport c'est fun, pas tout le temps, des fois c'est chiant, mais ça fait partie de cette partie du process, et ils vont être en meilleure santé sur le long terme. Donc c'est quand même c'est plutôt ça que j'essaie de partager.
Ouais. Et puis ta phrase quand même qui m'a trop fait marrer la semaine dernière, ça m'a un peu saoulé de courir 2 heures sous la pluie hier, ce matin il pleut encore, du coup j'ai décidé d'aller courir sous la pluie 3 heures. Je trouve que c'est tellement l'esprit, en fait, des fois on se dit des trucs, mais c'est dingue. Mais c'est vrai que, en fait, je pense que tout le monde se retrouve dans cette phrase là, enfin beaucoup de gens en tout cas.
C'est ça, ouais. qu'est-ce qui va pas avec moi d'y retourner malgré tout, hein. Non, mais c'est aussi de dire, j'ai fait une séance la veille, il pleuvait et ça m'a saoulé, et ça fait partie du, jeu, et ça empêche pas d'y retourner. C'est qu'il faut pas s'arrêter à la séance de merde de la semaine, qu'on a saoulé sous la pluie, où il a plu et ça nous a saoulé, et de se dire, oh, c'est bon, j'arrête la course à pied, il pleut trop en Bretagne.
Et de toute façon, si ça peut te rassurer, il pleut partout dans cette saison. Là, aujourd'hui, c'est un temps. Nous, en Auvergne, c'est un temps dégueulasse. Autant la semaine dernière, on était presque en short. Je dis presque. Hein. Enfin, il faisait beau, il y a du soleil et tout. Et mon marchand de pain m'a dit, mais à partir de demain, c'est la catastrophe, le temps. Je dis, arrête, tu te fous de ma gueule. Non, ça n'a pas raté. Sa météo était beaucoup plus précise que la mienne, au doigt levé. En tout cas, voilà. Et en fait, donc, je remettrai le lien, parce que c'est vrai, moi, tu me fais souvent rire, vraiment, avec tes trucs et tout, les pieds dans la boue, enfin, les trucs comme ça et tout. Et puis, ton côté influenceur culinaire est quand même indéniable, puisqu'il y a même des gens qui l'ont dit, qui l'ont affirmé, etc. Et c'est pour ça qu'un jour, mais je sais pas si tu l'as partagé, ta recette, mais que tu l'as, si un jour, faut quand même la partager, hein. Tu l'as fait, toi?
Recette de muffin, ouais.
Ouais, parce que c'est quand même un truc qui est important.
Ouais, je l'ai partagé, mais il faut que je la remette. Quand l'épisode sortira, je mettrai la recette de muffin en même temps.
Voilà, ce qui nous permet de dire, donc, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux? Parce que on a parlé Meta, donc, comment s'appelle, Fred, et Instagram. Oui. Donc, redis juste ton pseudo, en fait.
Donc, c'est Slowly We Run.
Ouais. Donc je mettrai en lien de en note de l'épisode, comme ça vous pourrez cliquer dessus. Vous verrez tous les trucs et tout, les petites recettes. Vous retrouverez aussi, j'ai vu que tu as partagé aussi Alain Gustave. Il m'impressionne toujours autant. Et lui, il vieillit, ouais. il est de plus en plus facile pour faire les tractions.
Et il a commencé la musculation à 60 ans quand même.
Et ouais. Et donc,
c'est ça qui est, c'est une belle histoire.
Et donc je vous renverrai sur l'épisode que j'ai fait avec lui parce que justement où il avait expliqué sa discipline, tu parlais de discipline et tout, et on a enregistré en automne et il disait ben l'hiver il fait son sport sous la neige pieds nus et tout, et il a pas dérogé à la règle en habitant en Suisse en plus, donc il est pas dans les Caraïbes. Je te remercie en tout cas beaucoup pour ce partage qui a permis d'ouvrir sur d'autres sujets, notamment les liens entre le côté pro, le côté tu parlais de développement, et c'est vrai, et rappeler quand même que le développement c'est une activité créative pour ceux qui le pense pas, on peut être, on est des artistes, ceux qui font du code sont des artistes. Le code est de la poésie, c'était le grand dicton de chez WordPress. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, ça fait partie des grands dictons qui ont marqué l'histoire. Et je rappelle quand même qu'il y a une bonne partie des sites internet qui tournent avec WordPress, donc ça fait partie aussi un petit peu de ce qui guide, etc. Et t'as raison de la créativité. Et je reparlerai de la créativité, je pense. Ça fait partie des grands sujets. J'ai pas abordé le côté mangeur de plantes que t'as mis dans ton, parce que les carbonara vegan, je voudrais pas relancer un sujet, ça a été suffisamment commenté sur mes réseaux, donc je voudrais pas reparler de ça, mais ça pourrait être un autre sujet un jour, hein, sur cette thématique là. Mais en tout cas, si on suit ton site, si on suit ce que tu racontes, on aura la recette des carbo vegan, hein, avec même une discussion sur quelle crème végétale il vaut mieux prendre,
ouais, entre la meilleure crème végétale pour la carbo.
Ce qui quand même pour un breton, oser dire, hein, que tu prends pas de la crème, etc., de la vraie crème de vache et tout, est quand même un petit exploit, hein, dans les régions dans lesquelles tu cours. Bref, en tout cas, je voudrais pas relancer les polémiques, mais c'est vrai que ça fait partie aussi des discussions où tu partages un petit peu de tout ça, et je te remercie beaucoup pour tout ça. On a bien compris ton programme, Osgore, La Réunion et tout. Bon, La Réunion, il fera quand même plus chaud qu'en Bretagne. Je sais pas comment tu te prépares à la chaleur de La Réunion.
Je sais pas encore, j'ai pas encore réfléchi à comment j'allais m'y préparer. Cet été, j'y penserai.
Ouais, pour l'instant, t'as le côté moite.
Voilà.
En tout cas, merci. Et alors, tu m'as vu aussi, j'ai vu, t'as goûté le lait banane, truc banane, là, Alpro, là. J'aurais pas faire de pub pour la marque. C'est bon, alors?
Ouais, c'est vraiment très, très bon.
Ouais. Bah, tu vois, l'autre jour, j'ai regardé, j'ai reposé, j'ai dit, ouais, quand même et tout. Bon, allez, bref, tu vois que t'es aussi influenceur lait végétal.
Apparemment, ouais, qui l'eût cru.
Qui l'eût cru. En tout cas, Colin, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec moi. C'était super cool de pouvoir discuter de ça. Puis ça fait un bout de temps, on s'était croisés sur 24 heures, justement. Pouvoir discuter de tout ça, de voir aussi un peu, d'aller creuser un peu les sujets autour de la productivité, de l'organisation, du télétravail et tout, du sport. Je te remercie beaucoup. Je mettrai bien entendu tous les liens dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez aller suivre et puis découvrir les recettes. Maintenant que t'as dit que tu mettrais la recette, allez cliquer dessus pour aller découvrir la fameuse recette des muffins. Moi, j'attends toujours les miens par la poste. Hein, ça faisait partie un petit peu de mes attentes, de mes espoirs, etc. Mais je les ferai. Une fois que j'aurai la recette, je les ferai. On partagera tous la photo comme ça. Tu vois, ça sera un petit honneur. Donc faites la recette, partagez-les. Et puis vous verrez aussi les poses yoga que Colin n'arrive pas à faire et que moi je vous confirme que je n'arrive pas à faire. Et puis un autre petit geste aussi technique là de sport là avec la petite dame. Qui fait un truc. Je ne sais pas non plus comment elle fait et je n'essaierai pas de le faire non plus. Bien, sur ce, je clôture. Je te remercie encore. Je te souhaite une belle journée, même si je t'empêche de courir aujourd'hui.
Hein et non, je suis allé ce matin déjà.
Tu es allé ce matin. Je suis rassuré. Bon, et toi, on est calé pour que tu puisses manger quand même en même temps que tes collègues, tes horaires habituels. Donc tout va bien. Je te souhaite en tout cas une belle journée. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée. On se retrouve très vite pour les nouveaux épisodes, soit le samedi le conseil, les épisodes samedi du lundi, et puis invité de la semaine prochaine. Je sais qui c'est à peu près, mais il y a peut-être des petits changements qui vont se faire dans mon organisation. En tout cas, je garde ça pour moi. Ça fait partie de ma petite surprise, mais on continuera à parler. On est dans des sujets pas très loin, et l'une des prochaines invitées, d'ailleurs, avait répondu à la même, au même fil de discussion que toi, tu vois, ce jour-là. Il y avait plein de gens qui ont discuté, ça avait lancé une belle discussion. Et ben, l'invité prochaine a aussi répondu et a aussi des belles choses à nous dire sur ce sujet. Donc je te remercie encore d'avoir participé. Je vous remercie tous pour l'écoute. Et n'hésitez pas aussi à mettre une petite note 5 étoiles et à aller suivre Colin, bien entendu, pour découvrir ses recettes de muffins, ses courses, ses conseils, les liens qu'il partage. Et cette étude-là, elle est folle. Hein. Franchement, je la remettrai aussi dans un autre épisode parce qu'elle est vraiment super intéressante. Merci beaucoup. Ciao, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.